Polyplaisir des Utopies, votre émission Radio Campus relative aux amours pluriels, réalisée et présentée par Polyphile du site polyamour.be. C'est ici que la magie des amours multiples nourrit son imaginaire, c'est ici qu'elle s'offre aux rencontres métissées. À l'ombre du jour, le micro entre les dents, le cœur nomade, je parcours les berges à la rencontre des polyglottes de l'amour. Je vous emmène ce mois-ci dans les locaux de Bruxelles Laïque. Le 6 juin dernier, j'organisais une rencontre débat. Comment changer le monde si on ne change pas soi-même ? Signification sociale, religieuse et politique du couple monogame. François Saint-Père était notre invité, et dans la salle, une septantaine de personnes, de tout âge et de tout milieu, intéressées par les amours pluriels, s'étaient donné rendez-vous.
Ben, d'abord, un grand merci à tout le monde d'être venu. C'est déjà le succès. C'est déjà le succès. Il y en a parmi vous que j'ai déjà vu un petit peu au Café Poli, à la Maison Arc-en-Ciel, mais on prendra le temps tout à l'heure d'un petit peu faire... Je ferai l'historique en 10 minutes du mouvement, voilà, pour ceux qui ça peut intéresser. Mais aujourd'hui, donc, c'est une forme atelier, c'est-à-dire que à 9h, Françoise devrait arrêter de nous donner en fait son point de vue sur les choses, plus largement pour ceux qui la connaissent. Mais c'est de toute façon un atelier, et donc on tient beaucoup à ce qu'un micro circule aujourd'hui. Mais donc, vous n'êtes pas sans le savoir pour certains que j'ai l'honneur de faire une émission sur Radio Campus qui parle des amours pluriels, où c'est vraiment fabuleux, il y a des gens fabuleux qui témoignent. Et donc, aujourd'hui, je vous propose d'enregistrer ce qui se dit. Je pense qu'il y a parmi vous pas mal de personnes qui ont envie aussi de prendre la parole, d'oser un petit peu dire ce que l'on vit, et de créer comme ça des nouvelles synergies. Thomas, tu vas te présenter,
oui. Oui, bah, je suis dans le cadre de mon travail, hein, donc bienvenue à Bruxelles Laïque, très content de tous vous recevoir, etc. Toujours est-il qu'on organise donc régulièrement des conférences, des ateliers ou des choses comme ce soir, avec des sujets divers. La dimension intéressante de la question des questions en fait que posent les amours pluriels, avec une approche qui est la mienne et la nôtre ici, qui est plus sociopolitique que intime ou psychologique, ou etc., qui est la manière dont on a l'habitude de traiter ces questions de couple, de famille, d'amour, etc. Et donc, on s'est assez entendu sur toute cette dimension, peut-être un peu plus intellectuelle ou intellectualisante, philosophique, voire politique, que m'ont posé à moi personnellement et que nous avons souhaité poser ensemble au public. Et voilà. Et donc c'est dans la continuité de cette rencontre-là que nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir.
Bonjour, et puis moi je suis très contente de voir tout ce monde-là. Pour tout dire, quand Philippe m'a demandé de venir faire une petite causerie ici, je lui ai dit, écoute, sincèrement, les amours pluriels, je sature. Je sature parce que ma première intervention sur le sujet date de 1978 et depuis j'ai dû en faire à peu près 52. Et avec toutes celles qui étaient vraiment n'importe quoi, du style gna, elle a des amants et elle raconte tout ça à son mari le soir au coin des bois. Enfin bon, je saturais vraiment et je lui dis ce qui m'intéresse beaucoup plus aujourd'hui, c'est quand même justement l'articulation qu'il y a entre ces choix de vie et les choix de société et le fait que ce choix de vie, on ne peut pas le décréter, que pour arriver à le vivre bien et en harmonie, d'une part ça demande du temps et d'autre part ça demande de l'intégrer, c'est-à-dire pas seulement de savoir, pas seulement d'avoir analysé, mais d'en avoir investi toutes les valeurs au plus profond de soi. Pour donner un exemple, c'est très 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 comparable avec la crise écologique. La crise écologique, toutes les analyses ont été faites. Tout le monde sait que la planète, et surtout l'humanité, puisque la planète, elle en a rien à foutre, mais l'humanité va à sa perte. Les scientifiques le savent, tout le monde le sait, mais les gens n'y croient pas. C'est-à-dire que la connaissance ne suffit pas à faire agir tant qu'on n'a pas intégré et vraiment cru à quelque chose. C'est un peu comme la mort, on sait tous qu'on va mourir, mais en fait, on n'y croit pas. Hein. On n'y croit pas du tout, et heureusement, d'ailleurs, de ce côté-là, parce que ça nous permet de survivre. Voilà, donc j'ai dit à Philippe, ok, je veux bien venir, mais j'aimerais bien qu'on faire quelque chose sur un thème qui serait en gros, peut-on changer le monde si on ne change pas soi-même ? Et une fois que je lui ai dit ça et qu'il m'a dit d'accord, j'ai été prise d'une angoisse terrible, parce que je me suis dit, si je traite ce sujet, j'en ai pour 6h30, ça va lasser quand même, et puis j'aurais pas fait le tour du sujet. Donc c'est pour ça que j'ai proposé un atelier où là, en quelques minutes, je vais vous donner quelques pistes de réflexion qui en fait ont été les miennes depuis que j'ai commencé, parce que moi, les amours pluriels me sont venus vraiment par toujours une articulation entre les deux. C'est-à-dire que j'ai vécu en communauté, dans des habitats autogérés, j'ai fait partie de groupes des Amis de la Terre dès 1975-78, donc dans des mouvances écologiques. J'ai réfléchi très vite aux relations de pouvoir, parce que moi, une des grandes, grandes raisons qui m'a fait choisir les amours pluriels, c'est que c'était une des rares formations amoureuses qui décrète l'égalité parfaite entre hommes et femmes. et c'est quand même suffisamment rare pour le dire. Et donc, je me suis dit, c'est vrai que quelque part, j'ai dû changer. J'ai en moi beaucoup de choses, parce que j'ai, comme tout le monde, été élevée d'une façon très classique. J'ai même fait du scoutisme, j'ai fait ma confirmation, ma communion, tout ça. Et donc, je ne suis même pas laïque à l'origine, je suis désolée, mais j'ai fait mes études quand même.
Françoise, dans ce qu'on avait prévu, on se présentait 2-3 minutes, oui. Et puis je faisais l'historique.
Ah d'accord.
Mais tu reprends la parole juste après moi.
Vas-y, d'accord.
Voilà.
Eh ben vas-y.
Ok. Donc c'est quelques dates repères, parce qu'il y a quand même une série de personnes ici qui ne savent pas un petit peu ce qu'on a vécu, un peu l'aventure de polyamour.be, que je vais relier aussi un petit peu avec mes amis parisiens, parce qu'il y a eu une rencontre. C'est un petit peu la magie d'Internet. Ça a été au départ aussi un journaliste de France Info qui a fait un billet sur rue 89. Mais au tout départ, on n'a pas commencé comme ça, au tout départ. Le festival Transformer, parce que je sais qu'il y a des gens de genre pluriel ici ce soir, c'était il y a déjà 4-5 ans, dans un petit coin perdu près de Tour et Taxi, et donc quelque chose qui m'attire parce que c'était underground, parce que le graphisme était sympa, et puis qu'on y parlait des genres. Et il y avait le mot polyamour sur cette petit folder, donc je me suis invité, parce que pour moi ça résonne aussi avec ce que j'ai pu vivre aussi en couple, dans des permissivités évolutives vers, à un moment donné, la prise de risque, de faire confiance à l'autre, de se dire, tiens, dans le fond, si les sentiments sont permis, comment ça se passe ? Voilà, c'était déjà des aventures d'il y a une dizaine d'années. Et puis, en remontant le temps, j'ai rencontré Tanguy, qui est ici parmi nous. Voilà, Tanguy. Et j'étais tout fier parce que j'avais acheté le nom de domaine. Alors, je lui ai donné mon adresse mail, alors que le site n'était même pas encore fait. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose d'intéressant, d'assez riche dans ce qui se passait. Et eux étaient dans des envies aussi de déconstruire les genres. Donc c'était vraiment une belle aventure. Et donc suite à ça, tu m'as invité, puisque à l'époque tu étais chroniqueur sur Pure FM, l'émission Bang Bang, qui donne la parole aux homosexuels principalement, mais plus largement aussi à d'autres idéologies. Et donc là, je me suis retrouvé avec ma compagne face au micro, 4-5 personnes qui nous bombardaient de questions, c'était un peu impressionnant. Mais on a tenu bon, et on savait que Tanguy était avec nous. Et donc c'était vraiment une belle aventure. Donc on est passé sur la RTBF en radio. Ça a donné un peu le ton. Donc suite à ça, j'ai ouvert le site. Et comme j'avais glané depuis 6 mois plein d'articles, tout d'un coup il y avait des articles à proposer, une première émission radio. Et puis je me suis lancé dans l'aventure radiophonique avec Christian qui n'est pas là ce soir. Mais c'est la première émission qui donne le ton un petit peu politique aussi peut-être dans certaines revendications. Voilà, ensuite Clémentine qui n'est pas là parce qu'elle est en vacances mais qui est bien souvent parmi nous, m'a téléphoné en disant « je veux témoigner dans ton émission radio ». Donc je lui dis « c'est super ». Et donc elle a eu aussi 2 belles émissions radio d'une heure où elle décrit un peu ce qu'elle vit. Et je crois que ça a aussi participé à donner le ton un peu du mouvement. Voilà, suite à ça, on s'est rencontrés, on a confirmé un petit peu dans les cafés polis l'idée de se voir en vrai, parce qu'Internet c'est bien, mais c'est quand même un peu virtuel aussi. Donc on est allé au Greenwich parce qu'il y a une ambiance sympa, c'est un grand café où les gens jouent aux échecs et qu'il n'y avait pas de musique. Et puis ils ont fermé. Et donc là, ça a été un peu notre chance, parce qu'on est allé un peu obligé d'aller ailleurs. Et puis tout d'un coup, ça s'est fait un petit peu naturellement. L'idée, il y a eu des rencontres à Paris avec Françoise qui s'est fait aussi à ce moment-là, avec Boaz, polyamour.info. Il y a eu Guilin qui est un peu le globe-trotteur du mouvement, puisqu'il se fait des amis à Oslo qui viennent après sonner chez moi, donc je suis un peu stressé. Moi qui espérais rester un petit peu, je sors pas beaucoup, enfin voilà, un polyviking qui vient sonner chez moi. Très chouette. Ça, c'est Frédéric qui fait des poly days. Donc, lui, il a déjà une expérience aussi, comme ça, d'une semaine, en groupe polyamoureux. On est tous dans un chalet, dans un sauna. On ouvre la porte, on est dans les fjords. Enfin, ça m'a fort impressionné. Voilà. Ça, c'était aussi par le groupe Linux, au fait, de Bruxelles, qui avait des connexions avec Radio Campus. Donc, c'est le logiciel libre. Pour moi, tout ça fait sens. Aujourd'hui, on est à la Maison Arc-en-Ciel. C'est un endroit associatif qui représente 30 associations. Donc, ça fait sens aussi. C'est un endroit non commercial. Le site est en open source aussi dans les interfaces. Il n'y a pas de pub. On essaye de tenter aussi un petit peu d'autogestion, ce genre de choses. Voilà. Et j'ai presque fini. Sauf, oui, encore quand même 2-3 choses. Chez Catherine, on est allé aussi se rassembler il y a 1 an, c'était un beau moment. Françoise était déjà venue, on était une trentaine. C'était quand tu as sorti le guide des amours pluriels. Et donc là, je sentais vraiment quelque chose passer. Ça avait l'air d'être une belle aventure. On est allé à Paris aussi ensemble, on est allé à des cafés polis aussi. On n'a pas encore été au Canada, mais ça ne saurait tarder. Voilà, alors il y a quand même Rue 89 qui nous a fait un beaucoup de pubs avec 1000 visites sur le site un jour, donc c'était impressionnant. Eux, ils en avaient eu 10 000 sur Polyamour Info. Il y a quand même en magazine papier Santé Magazine, Le Figaro Madame, Le Monde, la revue Union, Libération, Parlez-moi d'amour, donc ça c'était Françoise, déjà en 2007. Voilà, Europe 1, TV5, Canada RTB, Question à la Une qui était moyennement sympa avec nous.
Il suffit d'aller voir sur le forum. C'est un peu un manque d'éthique quand même de la part d'RTB. Voilà. Et puis donc toutes ces télés ont besoin d'un petit peu du croustillant. Et ils ont été plusieurs fois au Canada filmer les mêmes couples qui osaient vivre un petit peu, s'afficher un petit peu à l'écran, quoi. Voilà, ça se trouve sur le site aussi pour ceux qui veulent les vidéos. Voilà, et puis Thomas m'invite. Voilà, ça c'était un grand moment aussi au Festival de la Liberté. J'ai pris beaucoup de plaisir. Et là, tout d'un coup, j'étais un peu sorti de mon petit confort d'émission intimiste. Et j'étais un petit peu lâché sur la scène avec quelques féministes un peu tristes de ne pas avoir été invité. Donc j'ai été un petit peu. Je me suis dit, dans le fond, militer, c'est pas évident. Et est-ce que dans le fond, c'est ça que je veux faire? Ben, on ne sait pas. On va le décider ensemble. Mais en tout cas, c'était une belle invitation. Et il y avait quelques polyamoureux qui étaient là aussi, qui ont pris la parole. Il y a eu un début d'échange qui a continué un petit peu à m'encourager. Voilà. Sinon, on a aussi la naissance d'un polybébé. Il y a un an d'ici. Voilà. Des gens qui se sont rencontrés à un café poly et puis qui ont eu un petit bébé. Voilà. Ça, c'était un peu à remarquer. Voilà. Sinon, aujourd'hui, donc, on est à la Maison Arc-en-Ciel avec beaucoup de bonheur. Il y a eu quelques petites réticences de la part du CA, de la Maison Arc-en-Ciel, parce que ça faisait, de leur côté, peut-être après tout leur combat, ben, beaucoup d'hétéros qui venaient d'un coup, d'après eux. Et en même temps, ben, au-delà des étiquettes, nous, on avait envie de dire, ben oui, on est hétéros, mais dans le fond, parmi nous, il y a aussi des homosexuels, il y a aussi des bisexuels. Puis il y a des gens qui ont un peu marre des étiquettes, donc il a fallu un petit peu rassurer. Ils nous demandent de faire une petite charte parce qu'ils se méfient un petit peu du côté religieux, polygame aussi, ok, donc tout ça on entend bien. Je crois que surtout qu'ils avaient besoin d'être un peu rassurés, et aujourd'hui, par chance, chaque café poly a lieu le jour de leur CA, et donc à chaque fois qu'ils descendent, ils voient un petit peu qu'ils sont là, et je vois qu'en trois fois, ils sont un peu rassurés. Parce qu'on est quand même venu un an, un petit peu avec des mails où il n'y a pas de réponse, hein, mais on peut comprendre, parce qu'ils nous ont expliqué aussi que parfois les scientologues étaient venus toquer à leur porte, enfin bon, c'est aussi, je pense, un lieu qui est très ouvert. Voilà. Mais ça, ils n'ont pas été acceptés. Qu'est-ce qui reste? Ben voilà. Donc, quelques chiffres. Donc, il y a eu quand même une vingtaine de cafés polis, 220 membres, une centaine d'articles, 2000 commentaires sur le forum, 60 000 visualisations de messages, 1200 visites par mois, 15 émissions radio, 1000 téléchargements de l'émission Polyplaisir, 1600 écoutes en ligne, plus évidemment les diffusions sur Radio Campus, où on a un très bon accueil là-bas. Chez eux aussi, il y a eu l'unanimité quand j'ai proposé l'émission radio. Et ils ont dit, oui, ça fait vraiment longtemps qu'on n'avait plus entendu quelque chose avec un contenu assez riche. Et donc, c'était encore des encouragements. Alors, je vais terminer, mais il y a juste au niveau des perspectives. On a fait une petite boîte avec, à chaque café poly, l'idée de se mettre un petit message, une boîte à suggestions. Et on vous encourage vraiment, il y a le forum qui est là maintenant, qui est déjà bien alimenté, pour prendre peut-être quelques petits risques d'organisation. Donc on a tenté à Namur, on a tenté, pas encore à Liège, mais plusieurs cafés poly, à Luxembourg un ou deux. Mais donc, pourquoi ne pas rayonner un petit peu plus largement? Parce que je sais que ce soir, il y a des gens qui viennent aussi de Wallonie. Et j'ai quand même aussi passé 20 ans là-bas. Donc ça peut être très chouette, je pense, de créer des synergies comme ça. Du côté d'Anu, là, il y a déjà 2-3 personnes. Et Frédéric, là-bas, je le dis parce que je sais qu'il y en a d'autres aussi. Voilà, alors, c'est vrai que moi, pour ma part, si je pouvais un petit peu prendre un petit peu de retrait, parce que ça représente à peu près 1000 heures de travail sur 3 ans. Donc voilà, je l'ai fait parce que c'est un vrai choix, mais c'est vraiment ouvert, c'est l'open source, c'est le logiciel libre. C'est ouvert à d'autres, je ne sais pas, on peut tout imaginer. Voilà, se faire plaisir en tout cas. Ben, c'est fini. Voilà.
Bon, mais vous aurez remarqué d'ailleurs en écoutant Philippe que ce garçon-là est un dangereux activiste dans plein de domaines, hein, que ce soit le logiciel libre, différentes associations. Et c'est ce qui m'a frappé aussi, puisque depuis qu'il m'avait invité, il s'est passé ce qui se passe aussi, je pense aussi à Bruxelles, les rassemblements de jeunes, les indignés. Donc je suis allée à la Bastille dimanche dernier, et à ma grande surprise dans la foule, qui n'était pas très nombreuse, il devait y avoir 2000 personnes, mais hop, j'ai retrouvé des polyamoureux. Donc on s'est dit, non seulement on est polyamoureux, mais on est aussi de dangereux gauchistes, anarchistes et indignés. Et ça nous a interpellés. Et en fait, on s'est mis ensemble pour discuter de ça. Et pour arriver à la conclusion qu'effectivement, on a une vie privée, on a une vie publique, il y a un environnement social et puis il y a ce qu'on est intimement, mais qu'on peut très difficilement dissocier les deux. Lorsque j'ai vu les jeunes, justement, assis par terre en train de discuter... À un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est levé pour dire qu'il avait milité au Parti communiste international, ce qui n'est pas un péché, et il s'est fait huer immédiatement au cri de « apolitique, apolitique, apolitique ». Alors j'ai fait remarquer à mon voisin, je lui ai dit mais attends, se réunir comme ça à 2000 pour créer des lois, enfin des nouvelles revendications pour dire qu'on en a marre de telle et telle chose, c'est un geste éminemment politique. Et je te signale par ailleurs que politique n'est pas un gros mot, ni communisme d'ailleurs. Ils ont fait des erreurs, ça ne veut pas dire que tout le communisme est à jeter. Mais là je me suis dit, on a exactement le résultat de 20 ans d'influence des médias qui ont dit il n'y a plus d'idéologie, les politiques sont tous pourris, les jeunes il faut que vous soyez individualistes, chacun pour soi, no future, etc. Donc quand on voit ça, on aurait plutôt tendance à dire il faut changer le monde pour pouvoir changer soi-même, puisque le monde a eu une telle influence sur eux. Mais inversement, on se dit que ces jeunes, et notamment les peuples tunisiens, égyptiens, etc., qu'on avait vite catalogués comme soumis à des dictatures, il a suffi qu'il y en ait un seul, au prix de sa vie bien évidemment, qui s'est fait brûler, qui s'est immolé en Tunisie, pour que brusquement ça réveille tous les autres et qu'on découvre que ces gens-là, qui n'ont pas fait ça d'ailleurs venus de nulle part, c'était des mouvements de réflexion entamés depuis longtemps, jamais un événement inattendu n'arrive par hasard, et il y avait eu beaucoup de travail de mouvements féministes tunisiens, de mouvements de gauche, de mouvements associatifs, syndicalistes, qui ont fait que petit à petit les gens dans leur tête ont commencé à vraiment changer, c'est-à-dire à ne plus se dire c'est comme ça, Inch'Allah, on peut rien faire, mais à se dire on peut avoir une maîtrise sur notre vie. Donc on s'aperçoit qu'il y a sans arrêt une interdépendance entre ce que nous offre la société, ce que propose la société, et qui est destiné à modeler nos vies privées, et nos vies privées qui, si on les change, peuvent remodeler l'environnement ailleurs. On a un très bon exemple de cela avec le couple, la famille, parce que couple et famille sont quand même des constructions sociales extrêmement déterminées, choisies, y compris dans les lois qui réglementent la sexualité, pour maintenir un ordre établi. Il faut pas oublier que quand même tout le code civil a été fait en référence avant à un code religieux. Là, je vous parle de la France, mais je pense que pour la Belgique, on doit voir à peu près la même chose. Il y avait des influences religieuses qui ont influencé les lois. Et donc, par exemple, au niveau de l'exclusivité sexuelle, c'était beaucoup basé sur l'idée que la sexualité pour le plaisir était un péché, et que la sexualité était faite pour procréer, et qu'à partir du moment où on voulait être sûr qu'on ne procrée que dans son foyer, qui risque pas d'y avoir d'enfants bâtards, surtout à une période où la contraception n'existait pas, il fallait absolument prôner la fidélité. Et bien sûr, tout ça évolue au fur et à mesure qu'évolue le contexte social. Et si vous regardez bien, vous vous apercevez que la période du couple monogame pour la vie, c'est-à-dire on se mariait à 20 ans et on restait toute sa vie avec la même personne, même si on s'ennuyait avec, mais enfin il était hors de question de la quitter, de divorcer ou de recommencer une autre vie, correspond à la période aussi où on rentrait au service d'une entreprise à l'âge de 16 ou 18 ans et on restait au service du même chef d'entreprise jusqu'à la fin de sa vie, avec des avantages, qui était l'avantage de la stabilité et de la sécurité, et l'inconvénient, qui était l'inconvénient d'une relation de pouvoir extrême, d'une part entre le mari et sa femme, je dis souvent entre le mari et sa femme, parce qu'à l'époque, c'était plus souvent les maris qui rapportaient l'argent à la maison, et d'autre part, entre le patron et ses ouvriers. Et cette relation se retrouvait dans la vie privée, dans la vie publique. Un peu plus tard, disons, on va dire dans les années 70-73, premier choc pétrolier, brusquement, l'économie est en péril et on s'aperçoit qu'on n'aura plus cette sécurité de l'emploi, mais qu'on aura un patron puis qui pourra nous virer quand il voudra. Alors ça a été la grande découverte, que l'amour qui nous liait à notre patron et à notre entreprise n'était pas éternel, qu'on allait en trouver un autre qui nous allait nous offrir. Et on arrivait à avoir plusieurs emplois, mais toujours avec un seul employeur. C'est-à-dire que c'était du serial travail. Et dans le même temps, et c'est sûrement pas un hasard, le modèle qui est devenu petit à petit très important dans les modèles de couple, ça a été les serial monogames. C'est-à-dire les gens qui font un couple et puis ça ne marche pas, ils divorcent, ils en refont ailleurs, ça ne marche pas, ils en refont. Et aujourd'hui, c'est vrai que les divorces représentent à peu près un mariage sur deux, en tout cas en région parisienne, et un sur trois, je crois, dans l'ensemble de l'Europe. Et un couple monogame exclusif qui se forme en 2011, m'a dit un psychiatre, a une espérance de vie moyenne de 4 ans. Ce qui fait que ça joue énormément dans la façon de voir l'amour, parce que comment avoir confiance dans un contrat éternel qui a une durée de 4 ans ? Alors que justement, les polyamoureux disent que l'essentiel de leur façon de vivre est basé sur la confiance mutuelle qu'on se fait et sur la confiance qu'on a en soi-même. Parce qu'il faut à la fois cultiver la confiance en soi et la confiance en soi-même. Mais cela étant, entre la période monogame exclusif et la période sériale monogame, et donc ce moment où on a quitté une économie très sûre pour une économie beaucoup plus précaire, les gens qui divorçaient à l'époque ont connu exactement le même rejet que les polyamoureux aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas dans la morale qui avait eu lieu pendant des années et des années, ils en inventaient une autre, et ils étaient tout aussi rejetés. Il fut une époque où être divorcé ou enfant de divorcé, c'était être mis au banc et critiqué, comme aujourd'hui les polyamoureux sont critiqués, et ils commencent à l'être moins parce que, en ce moment, viennent de nouvelles valeurs. De nouvelles valeurs qui sont liées essentiellement là maintenant à la crise économique, certes, mais aussi à la crise écologique, puisqu'on s'aperçoit qu'il faut partager les ressources, que s'approprier le vivant n'est peut-être pas une très bonne chose, puisque ça aboutit à du pillage des matières premières, des gènes, des plantes, etc. Et à partir du moment où on refuse de breveter un gène et de s'approprier le vivant, il serait quand même absolument absurde de vouloir s'approprier un être entier. Donc effectivement, l'appropriation dans le couple apparaît pour ce qu'elle est, c'est-à-dire quelque chose d'antinaturel. Le partage des ressources, c'est complètement ça, le partage des ressources dans le polyamour. Nous sommes un certain nombre d'hommes, un certain nombre de femmes, et on considère qu'on peut s'apporter mutuellement plein de choses, et que c'est un petit peu comme dans un champ où il y a à la fois du blé, des coquelicots, etc. Les coquelicots ne sont pas en rivalité avec le blé, mais ils sont nécessaires. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de synergie dans un système écologique qui fait que les espèces ne sont pas en rivalité, mais sont en complémentarité. Et on retrouve exactement là-dedans ce que défendent les polyamoureux en permanence. C'est pour ça que je dis que c'est une écologie amoureuse. Mon éditeur m'en a beaucoup voulu, il m'a dit « Ah, c'est très snob votre truc, ça veut dire quoi écologie amoureuse ?» Mais en fait, c'est une logique. C'est-à-dire que les valeurs qu'on a relèvent de l'écologie. Et comme en ce moment, l'écologie, ce que je vous disais tout à l'heure, tout le monde sait que c'est quelque chose d'extrêmement important, mais que ça demande de véritablement revoir ses modes de vie, ses modes de consommation, sa façon d'être au temps, au travail, etc. C'est un effort. C'est un effort comme n'importe quel changement. Et donc, c'est difficile. Et on a à peu près le même effort dans le polyamour. Ça implique de revoir ce rapport à l'autre, à la propriété, à la jalousie, à la durée, etc. Et ça demande de l'effort. Les gens qui se disent « Tiens, je vais essayer le polyamour, ça a l'air bien ce truc-là », et qui essayent et qui, au bout de 3 mois, se disent « Tiens, ça ne marche pas », c'est parce qu'ils ont oublié la dimension temps qui est extrêmement importante. Alors, la vie personnelle ne peut pas être dissociée de la vie publique, même si on a l'impression qu'il y a sphère publique, sphère privée, parce que, de toute façon, la première chose que font tous les gouvernements, et qu'ils soient de gauche, de droite, religieux, pas religieux, c'est de réglementer la vie sexuelle des individus. Parfois avec des choses très absurdes, comme des lois aux États-Unis où on déclare que la fellation est permise dans tel et tel truc, mais pas dans telle et telle chose. Que je me demande d'ailleurs comment ils peuvent aller vérifier, mais enfin bon, il y a quand même des choses extrêmement précises, et elles ont la nudité, la pudeur sont extrêmement réglementées dans nos lois. Il y a les attentats à la pudeur, il y a les outrages publics. Il y a une chose qui me fait beaucoup rire dans la loi française, je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais c'est qu'une personne qui téléphone à la police en disant « Il y a un exhibitionniste sur mon balcon qui est tout nu, venez, c'est scandaleux », la police vient pour arrêter l'exhibitionniste, mais jamais pour arrêter le voyeur. Alors que finalement, d'ailleurs, l'histoire classique, c'est la dame qui accueille le policier en disant « Oui, oui, venez voir à mon balcon. » Puis le policier qui dit « Écoutez, je vois rien. » Elle lui dit « Si, montez sur le tabouret, vous allez l'apercevoir. » Voilà. Et on s'aperçoit quoi ? Que finalement, oui, là, c'est l'exhibitionniste et pas le voyeurisme. Et pourquoi ? On n'en sait rien. Donc il y a vraiment une volonté de réglementer la vie sexuelle des gens pour qu'elle ne soit pas libre. Et pour une raison simple, c'est que la liberté sexuelle, c'est une liberté extrêmement importante qui est très épanouissante. Mais si on est dans une société qui épanouit la liberté sexuelle, on supprime un ressort essentiel de la consommation qui est la frustration. Parce que quand vous avez une publicité, j'en ai vu une récemment pour un parfum de je ne sais plus qui, où on ne montre le parfum qu'à la fin. Pendant tout le début de la pub, on ne sait pas. On voit arriver un type super beau, costard, machin, qui claque des doigts, il claque deux fois des doigts, apparaît une créature de rêve. Il claque de l'autre main, apparaît une voiture de rêve. Il met la nana dans la voiture, il part avec la voiture, et à la fin, on voit le flacon de parfum. Le message sous-jacent, c'est vraiment, si tu achètes ce parfum, tu auras la voiture, tu auras la nana, tu auras le pouvoir. Et on ne peut faire fonctionner ça que si les gens ont une frustration. S'ils disent « Mais attends, la nana, je l'ai déjà chez moi, elle n'est peut-être pas créature de rêve comme celle-là, mais elle me convient parfaitement, et en plus, j'en ai pas qu'une, j'en ai plusieurs. » Le parfum, enfin la pub du parfum, elle perd tout pouvoir. Et toutes les, toutes les publicités sont basées là-dessus, sur une frustration par rapport à l'être, au narcissisme, à l'ego et à sa capacité de séduire. Et donc, réglementer la vie sexuelle, c'est important. Et vous pouvez remarquer que tant que c'est tarifé, tant que ça se passe dans des endroits payants, style Club Libertin, ben ça passe très bien, hein, il y en a dans le monde entier. Mais dès que vous dites que ça peut être de l'amour libre et gratuit entre gens consentants sans problème, on vous regarde avec des yeux ronds. Parce que ça sort du système économique. Et c'est en cela que je dis la façon dont on vit sa vie privée peut influer sur la façon dont on vit sa vie économique et sa vie politique. Pourquoi y a-t-il tant de difficultés chez les polyamoureux? Puisque finalement, si vous êtes là, s'il y a les cafés polis, et si on a des forums où il y a beaucoup de gens qui viennent dire qu'ils sont en difficulté parce qu'ils essayent, c'est que c'est pas si facile. Et effectivement, c'est pas si facile, et c'est pas difficile parce que c'est nouveau, parce qu'en fait, ça n'est pas nouveau. Cette envie de pouvoir vivre librement plusieurs amours, elle a germé dans le cerveau d'un tas de gens, peut-être pas de la majorité, mais d'un tas de gens qui se disent, mais au fond, pourquoi, parce que j'aime quelqu'un à l'âge de 20 ans, je devrais fermer le monde, fermer mes yeux, même si on dit que l'amour est aveugle, je trouve ça terrible comme phrase, l'amour est aveugle. Est-ce que ça veut dire que le monde s'arrête parce que j'aime au pluriel, ou parce que j'aime quelqu'un plutôt, que j'ai plus le droit de regarder quiconque, et pas seulement en question sexuelle, mais d'aimer simplement, d'apprécier la présence de quelqu'un, d'être touché à tous les sens du terme. Et donc, il y a eu plein de gens qui ont essayé d'aller au-delà de cette monogamie exclusive. Il y a eu le libertinage des années folles, ou à plusieurs périodes, ou dans le XVIIIe siècle, qui était plutôt sympathique comme façon d'être, qui était assez respectueux, qui était drôle, mais qui avait quand même un inconvénient énorme, c'est qu'il était réservé à une certaine classe. C'était quand même du libertinage de classe aisée, favorisée. Ça appartenait aux nantis. Un peu comme aujourd'hui, on dit les nantis peuvent faire n'importe quoi avec leur sexe. Bon, ben c'était pareil, c'était un privilège. C'était n'était pas ouvert à tout le monde, alors que le pluriamour voudrait que ça soit ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de raison que ce soit une question de richesse ou de classe sociale. Ensuite, il y a eu les épisodes de libération sexuelle des années 70. Ça que j'ai connu au moment des années 70, c'est vrai qu'il y a eu cette envie d'être très libre sexuellement. Et qui s'est cassé la figure pour beaucoup de gens, mais pour des raisons simples, c'est que ça n'était pas un choix de liberté, c'était une réaction à une absence de liberté. Et la société des années 60 était très prude, et du coup, ça a été un éclatement, mais qui arrivait avec des contraintes au moins aussi grandes, peut-être pas au moins aussi grandes, mais en tout cas des contraintes très désagréables, qui étaient qu'on vous disait « t'as le droit de dire oui, t'as le droit de coucher, mais t'avais plus le droit de ne plus coucher et de dire non ». C'est-à-dire qu'une fille qui disait non, on lui disait « Comment, t'es pas libérée ? Mais enfin, quand même, qu'est-ce que c'est que ce truc ? T'es super bourgeoise, et puis la jalousie, c'est un machin petit bourgeois. » Alors que n'importe quel polyamoureux sait que de temps à autre, ça arrive d'avoir des bouffées de jalousie. Simplement, dans le polyamour, on se dit « Bon, ça m'arrive, là, je suis pas bien. Il y a un truc que je vis mal. Pourquoi est-ce que je le vis comme ça ? D'où ça vient ? Qu'est-ce que ça cache comme peur ?» Et petit à petit, en analysant sa peur, on ne la nie pas, mais on l'apprivoise. Et le seul moyen de se débarrasser d'une peur, c'est surtout pas de lui rentrer dedans, parce qu'elle est plus forte que vous, c'est de l'apprivoiser. Donc ces moments-là n'ont pas... Cette libération sexuelle des années 70 avait deux défauts. Premièrement, elle était trop idéologique, c'est-à-dire tu le fais pas, donc t'es comme ci, comme ça, t'étais classé, classifié. Elle reste extrêmement machiste, parce que c'était quand même beaucoup les mecs qui disaient faut coucher, et les filles, elles avaient le droit de dire oui et pas de dire non. Et puis aussi, elles interdisaient pour la plupart le sentiment amoureux. C'est-à-dire, c'est une libération sexuelle, mais pas une libération de l'ensemble des composants d'une relation affective, intellectuelle, etc. Alors, par contre, il y a eu des gens qui avaient fait une analyse fabuleuse du polyamour, bien avant qu'on l'appelle polyamour. Eux, ils l'appelaient amour plural. Pourquoi pas d'ailleurs, pluraliste donc, amour pluriel, ou bien camaraderie amoureuse. Et je vais vous lire juste trois petits textes. Alors ce sont des textes qu'un ami m'a trouvés chez un bouquiniste et qui datent des années 25 à 35 à peu près. Et ce sont des textes anarchistes, libertaires anarchistes. Et je vais vous lire ça et franchement, je trouve qu'on ne pourrait ne pas en changer une ligne. Cette histoire-là. Jusqu'à 9h15, l'être avec lequel vous aviez depuis si longtemps cohabité était doué de toutes sortes d'attributs et de qualités morales sans rival. C'était, à vous entendre, l'incarnation d'un idéal, presque un ange descendu du ciel et envoyé du ciel pour vous tenir compagnie et rendre votre existence supportable. À 9h20, vous apprenez que cet être unique, extraordinaire, perfection des perfections, a couché avec quelqu'un d'autre que vous. À 9h25, il faut bien 5 minutes pour vous ressaisir, cette perfection des perfections est devenue un monstre le plus répugnant que la Terre ait jamais porté. Sa présence vous est devenue insupportable et vous ne voyez d'autres ressources pour contrebalancer cette nouvelle que de quitter à jamais le toit sous lequel vous avez vécu ensemble tant d'heures de joie, d'affliction et de différentes choses. Je ne sais pas sur quelle raison d'ordre moral, laïque, juridique ou religieuse vous vous basez, mais quant à moi, je vous déclare franchement que je ne puis concevoir votre conduite autrement que dictée par trois mobiles, l'ignorance, la méchanceté ou la démence. Donc c'était Émile Armand qui était un grand théoricien de la liberté amoureuse et au fond, on pourrait ne pas en changer une ligne. Et alors après, il a certainement eu quelqu'un dans la foule qui a dit « Ah oui, alors vous voulez dire qu'il faut donner le polyamour pour tout le monde ?» l'amour plural pour tout le monde, chose qu'on nous dit tout le temps et auquel moi je réponds, il est hors de question d'imposer un modèle, puisque justement on ne veut pas de modèle, mais pourquoi justement ne pas laisser la porte ouverte et chacun libre? Eh bien eux, en 1925, voilà ce qu'il avait dit, il ne s'agit pas de se demander si la monogamie ou la monoandrie est un préjugé, si la polygamie ou la polyandrie est une aberration, nous posons la question de la liberté sexuelle comme nous posons la question de la liberté intellectuelle ou scientifique, la question de la liberté d'opiner, de se réunir ou de s'associer. C'est dans cet esprit semblable que le problème doit être résolu. Faire une exception pour l'activité amoureuse, revendiquer, sauf dans ce domaine, la faculté pour chacun de se déterminer selon ses aspirations et ses goûts, c'est faire montre d'un illogisme indéfectible. Et finalement, nous, on ne dit rien d'autre que quand on dit « Mais attendez, on vous dit dans le travail, il faut apprendre à être flexible, à faire plusieurs choses dans une vie, etc. Avoir plusieurs enfants, on vous dit que c'est bien, en avoir un enfant unique, c'est être un peu bizarre. Imaginez que vous disiez « J'ai mon enfant, je l'aime et j'en veux pas d'autre parce que je serais incapable d'en aimer un autre », on vous internerait aussitôt. Et alors, pourquoi uniquement dans la vie amoureuse ? Et donc, les anarchistes avaient théorisé ça dans des choses qui s'appellent subversisme sexuel, ils n'avaient pas peur des mots, la camaraderie amoureuse, la liberté de l'amour, l'émancipation sexuelle de la femme, et à part ça, j'en ai un qui s'appelle l'Espagne en marche, comme quoi l'histoire se répète. Et alors, pourtant, ça n'a pas marché. Et justement, c'est important de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, parce que ça nous explique aussi pourquoi, en ce moment, finalement, on risque gros à être polyamoureux, mais que si on intègre vraiment ça, on peut l'imposer. C'est qu'à l'époque, ces gens-là, Émile Armand, Madeleine Pelletier, tous ces gens-là, étaient des intellectuels, des anarchistes intellectuels, qui ont théorisé, qui l'ont vraiment très bien fait, c'est extraordinaire, mais ils l'ont imposé comme une théorie. C'est-à-dire que c'était une idéologie qui était extrêmement bien faite, mais que les gens à qui ils en ont parlé n'ont pas intégré vraiment. Et donc, c'était très difficile pour eux de se dire « on va vivre comme ça », alors que ce n'était pas eux qui, par leur réflexion, en étaient arrivés à ces conclusions. Et c'est toujours difficile. C'est d'ailleurs, comme n'importe quelle théorie, une des grandes raisons pour lesquelles les régimes communistes ont échoué, c'est qu'ils ont été plaqués comme ça, et que quand c'est plaqué comme ça, il y a droit à toutes les dérives, et notamment aux relations de pouvoir qui reviennent, parce que la relation de pouvoir, c'est quand même très inné chez l'être humain. Voilà. Et donc, le polyamour anarchiste de l'époque n'a pas marché parce qu'il est venu d'une petite élite qui voulait l'imposer aux autres. Donc, il faut pour que ça diffuse, c'est vraiment parce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire ne pas penser qu'il y a des élites qui savent mieux que les autres, mais échanger, ce qu'on va faire dans pas plus de 3 minutes, échanger nos expériences, voir où ça coince, voir pourquoi ça coince, essayer de voir comment on peut faire pour que, au lieu que ça soit une souffrance, ça devienne un bienfait, savoir aussi à quoi sert la souffrance qu'on peut ressentir, etc. Et en plus, il y a une autre chose, c'est qu'à l'époque, et d'ailleurs encore aujourd'hui, ces gens-là étaient du mouvement anarchiste, Fédération anarchiste libertaire. Or, vous le savez comme moi, les anarchistes ont toujours eu mauvaise presse dans les grands médias, dans les médias officiels. Donc ceux qui venaient des anarchistes, c'était quasiment des théories terroristes. Aujourd'hui, c'est pareil. Hein. Nous, on a eu notre malheureux Julien Coupa qui a été interné 6 mois sans aucune raison. Et pourquoi ? Parce qu'on l'a appelé anarchiste libertaire, donc terroriste. Et à partir du moment où vous dites, moi, quand je dis aux gens, moi, je me sens anarchiste libertaire, immédiatement, ils ont beaucoup moins d'indulgence pour tout ce que je raconte. Donc, ça veut dire que lorsque on commence à montrer que notre façon de vivre peut réellement influer sur la société et effectivement en ébranler les piliers libéraux d'économie ou autres, ça fait peur. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut d'abord qu'on change et qu'à partir de là, forcément, ça fera changer la société. Et puis, il y a une autre raison pour laquelle c'est plus facile de changer soi-même pour changer la société. C'est que changer la société d'un seul coup, c'est une œuvre de militantisme à plein temps très difficile et sur laquelle parfois on n'a pas prise. Il y a des malheurs qui se passent dans le monde, ça a beau nous navrer, on n'y peut rien. Enfin, on n'y peut rien, on n'a pas de prise réelle. Tandis que sa propre vie, ses propres repères, sa propre façon d'être, égoïste ou pas égoïste, dominant ou pas dominant, ça, on a du pouvoir dessus. Ça ne veut pas dire que c'est facile à faire, mais au moins, on peut agir sur soi et pour pouvoir ensuite agir sur les autres. Voilà, bah écoutez, moi j'ai terminé sur cette réflexion et maintenant j'attends vos questions et vos réflexions à vous.
Non, je voulais dire par rapport à l'historique, enfin, je suppose que tu connais Wilhelm Reich. Et donc, apparemment, il y avait eu, dans les années 20, en Autriche, en Allemagne, un peu en URSS ou en Russie, des choses vécues par la population avec cette liberté-là, mais qui a été étouffée par le mouvement communiste, effectivement, et nazi de l'autre côté, quoi.
Oui, et puis en plus, Reich avait bien décrit ce qu'il voulait comme liberté amoureuse et sexuelle, et notamment pour des très jeunes. Hein, ça commençait vers l'âge de 14-15 ans. Mais après, ça a été organisé, alors ça, c'était sans doute la façon allemande, en camp amoureux d'été, etc. Et voilà, je crois qu'il y a eu ce côté, je sais pas, ça avait ce côté trop organisé.
Sans imposition.
Voilà.
Sans imposition, contrairement à l'époque 68.
Voilà, c'est ça.
Moi, j'ai une question, par contre. C'est une question qui me taraude depuis au moins 25 ans. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça pose toujours un problème. C'est la question du mariage. Je veux dire, on sait être polyamoureux dans nos vies, on sait vivre de manière différente, mais l'institution du mariage continue d'avoir de la valeur aux yeux des gens. Continue à ne pas être vue comme quelque chose qu'on puisse abolir. Moi, je sais que je me suis retrouvée dans des milliers les plus différents, à part justement les anarchistes, qui sont malheureusement une toute petite minorité. Mais même chez les anarchistes, il faut aller voir après les comportements. Ça, c'est une autre histoire. Mais je veux dire, l'idée que, mon Dieu, le mariage n'est pas un droit, mais un privilège, quelque chose qui donne du privilège aux personnes, que les gens font parce que ça donne des privilèges. Même, je ne parle pas de ceux qui le font parce qu'ils aiment vraiment le mariage, parce qu'ils y croient. Ça, c'est le mariage religieux, je le mets de côté. Mais le mariage civil, mon Dieu, on dit que c'est pour donner des droits aux enfants. Mais un enfant, il a des droits parce qu'il est né, pas parce qu'il a tel père ou telle mère. N'importe quel enfant doit avoir ça. C'est l'individuation des droits sociaux, dont on parle tellement bien en Belgique, de temps en temps. Mais je veux dire, ça dans tous les milieux féministes, par exemple, je n'arrive pas à parler de ça. À chaque fois que j'en parle, on me répond « Mais non, on a donné le droit aux Noirs de se marier avec les Blancs. Le mariage est un droit fondamental de l'être humain. » Moi, je n'y vois qu'une influence de la religion qu'on n'arrive pas à enlever de la tête des gens. Et c'est vraiment... Non, mais c'est dramatique. Je veux dire, j'ai beau connaître des gens ouverts, des gens tout polyamoureux et libertins que vous voulez, mais à un moment ou un autre, il faut quand même se marier. Il faut que les homosexuels aient droit au mariage. Il faudra bientôt que tout le monde ait droit au mariage. Alors qu'on ne comprend pas pourquoi on ne peut pas s'en passer. Je veux dire, pourquoi ça ne pourrait pas être réservé aux religieux? Je comprends très bien que quand on est religieux, on a une communauté de foi et on prononce des vœux par rapport à cette communauté. Ça, je comprends très bien. Mais ce n'est pas la vie civile, ce n'est pas la vie laïque, ce n'est pas la vie de l'État où on vit. Donc moi, franchement, vraiment, je suis découragée parce que je me dis, mais ce n'est pas possible. C'est tellement difficile à faire passer. Parce que c'est évident que si aucun parti le propose, c'est parce qu'ils savent très bien qu'ils ne vont pas être élus s'ils proposent une chose pareille.
Non, mais je crois qu'il y avait la réponse dans ta question. Parce que j'ai posé la question justement à un homosexuel, un ami homosexuel qui militait pour le droit au mariage des homosexuels. Et je lui ai dit, tu vois, tu me navres. Tu me navres parce que moi, j'ai manifesté justement contre le mariage pour l'union libre. Vous avez le Pax et le Pax, c'est bien. Pourquoi vouloir vous marier alors qu'on a tellement lutté contre le mariage dans des mouvements féministes, en fait, dans certains, pas dans tous, je suis d'accord avec toi. Et il m'a dit, mais regarde la loi, on n'a pas les mêmes droits selon qu'on est paxé ou qu'on est marié. Et donc, ça veut dire qu'on garde effectivement des privilèges pour les gens mariés. Pas forcément fiscal, hein, parce que moi, je me suis séparée de fait, de droit, etc., parce que je payais moins d'impôts qu'en étant mariée. Mais les gens ne le savent pas.
La réponse a été donnée tout à l'heure dans ton texte, en ce sens que les mariages, la plupart du temps, toutes les législations viennent prioritairement des problèmes religieux, sans s'en rendre compte. Elle a dit « Mon Dieu
!» Et c'est hérité de la religion, et le mariage garde une valeur considérée comme supérieure parce qu'il donne des droits dans la loi supérieure. Donc effectivement, l'homosexuel dit « Moi, je veux me marier pour avoir les mêmes droits que les hétéros. » Et qui veuille les mêmes droits que les hétéros est tout à fait justifié, mais ce qui n'est pas normal, c'est que ce soit le mariage qui vous donne ces droits-là, effectivement.
Si je peux complémenter, il y a peut-être des juristes parmi nous, ils confirmeront. L'institution du mariage telle que nous la connaissons encore aujourd'hui date de 300 après Jésus-Christ. Donc elle a déjà 1800 ans d'âge. À l'époque, elle n'avait rien de religieux. C'est l'empereur Constantin qui a déménagé de Rome à Constantinople et donc il avait des frais. pour faire des réductions de coûts avec son administration, vu qu'à l'époque, les gens vivaient le conjoint plus ou moins social, l'amant, les vite fait bien fait. Il a trouvé que la famille, quand il y avait des enfants, c'était plus simple de taxer un couple et une famille que deux personnes différentes. Donc il a fait des réductions de coûts de ses fonctionnaires. Et de là, l'institution de mariage, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est encore et toujours une excuse fiscale que bien des religieux ont récupérée.
Et moi, je trouve que c'est absolument, quand on veut avoir de l'autonomie, on doit pouvoir gérer son argent seul. Et donc, je ne supporte pas qu'un couple marié soit obligé de faire une déclaration commune. Je trouve que chaque individu devrait pouvoir déclarer. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je me suis séparée de corps et séparée de fesses qui autorise à faire une déclaration fiscale séparée. Alors que je m'entends, que je suis toujours officiellement mariée, mais j'ai trouvé ça d'avoir deux domiciles. Enfin bon, on a magouillé pour ça. Mais c'est parce que je ne supportais pas l'idée que je ne puisse pas gérer tranquillement mes sous et lui les siens, quoi. Voilà.
Oui, cela confirme que le mariage était toujours un contrat financier ou des associations d'affaires ou des associations d'héritage. Mais après, évidemment, le romantisme du 19e siècle s'est mêlé de ça. Mais voilà, c'est tout.
C'est un peu une digression, mais ça fait un lien malgré tout avec ce qui a été dit. C'est-à-dire le mariage, ça donne le droit, entre autres, de pouvoir vivre avec quelqu'un qui n'a pas le droit, en principe, de vivre en Europe. Ça, c'est un exemple. Et maintenant, en Belgique, on veut limiter ça aux riches, ce droit-là. On veut que les gens qui sont pauvres n'aient pas le droit de faire un regroupement familial s'ils n'ont pas un minimum de niveau de vie. C'est intéressant à savoir.
Par contre, ce que je pourrais compléter sur le mariage, moi je suis évidemment une farouche indépendante, mais j'ai vécu en couple assez souvent, ce qui est considéré actuellement aussi équivalent que de vivre en mariage. Mais dès que je suis séparée d'une vie de couple, j'ai une vie sociale qui disparaît. C'est drôle, ça fait peur, une femme seule, ça c'est sûr et certain. Ne reste que les très très bons amis et des choses comme ça. Mais c'est toujours une déviance, en effet, de ce mariage. C'est, tu appartiens, on ne risque rien parce que tu es contrôlé, tu appartiens à quelqu'un.
J'ai raconté dans mon livre, L'aimer plusieurs hommes, combien ça m'a terrifiée parce que je ne voulais pas me marier. Moi, je savais déjà que j'étais un peu une erreur de casting dans l'institution, donc je ne voulais pas me marier. Et à un moment donné, on se laisse entraîner dans les espèces de pressions familiales. Ça fait 5 ans que vous vivez ensemble. Ça ne change à rien pour vous puisque de toute façon vous vivez ensemble, etc. Donc après on se dit bon, on va faire plaisir aux parents, on se marie. Et en fait ça change. C'est-à-dire que du jour où j'ai été mariée, moi la première chose qui m'a hérissée, c'est de recevoir une lettre au nom de Madame Bernard Saint-Père. C'est-à-dire que d'un seul coup, j'avais plus de prénom, j'avais plus de nom. Et cette perte d'identité, alors j'ai téléphoné à l'administration, j'ai dit attendez, je m'appelle Françoise Sinassami et Saint-Père c'est un nom que j'ai le droit d'utiliser, c'est tout. Et je vous interdis de m'envoyer un chèque à ce nom-là. Alors elle était très surprise, c'était pour des allocations, je ne sais quoi. Et pour elle c'était normal, mais vous êtes mariée, voilà. Et c'est vrai que ça change quelque chose parce que d'un seul coup, il y a une perte d'identité, il y a aussi le fait que les amis n'osent plus vous inviter séparément. Parce qu'on invite un couple, inviter le mari sans la femme ou la femme sans le mari. Moi, combien de fois, puisque je sors très souvent toute seule, on me dit « mais ton mari, où est-il ?» Ben, je dis « il est à la maison » et alors là, on me regarde avec des yeux ronds, quoi. Et puis, c'est pas que je lui ai interdit de venir, mais il y a des fois, il y a des choses où il a pas envie de venir ou il y a des choses qui sont des repas où je préfère aller toute seule. Mais c'est quand même très très mal vu, c'est-à-dire que les gens ont l'impression que ça va pas entre nous. Donc le mariage change vraiment quelque chose parce que quand on n'était pas marié, ça ne se posait pas.
Tu rejoins un point que tu as évoqué tout à l'heure au niveau de la difficulté de vivre les relations multiples. Alors, il ne faut pas oublier que vivre des relations multiples, c'est avant tout vivre des relations. Or, une relation, vivre une relation, ce n'est pas simple du tout. D'accord ? Et bon, c'est la même chose. Quand on est marié, par exemple, les gens se figurent que parce qu'on est marié ou parce qu'on est ensemble, en couple, on doit nécessairement faire tout ensemble. On revient dans le même problème. La difficulté d'une relation libre. L'autre n'est pas obligé de me suivre et je ne suis pas obligé de suivre l'autre. On a chacun ses activités. Et donc, éventuellement, la possibilité aussi de vivre d'autres relations.
Mais moi, je me demande quand même si le polyamour, c'est pas quelque chose qui est lié à un certain niveau social. Parce que pour pouvoir être indépendants les uns des autres, il faut quand même que chacun puisse gagner sa vie correctement. Enfin, j'ai l'impression que on dit le mariage, ça sert à quoi? Mais il y a des gens, malheureusement, enfin, ils sont obligés de se marier parce que s'ils se marient pas, ils n'ont pas deux revenus et s'ils n'ont pas deux revenus, ils vont pas pouvoir nourrir leurs enfants. Enfin, je sais pas. S'il y a quelqu'un qui veut me répondre.
Je crois que oui, il faut en effet une indépendance financière des deux. C'est très difficile d'être libre si on dépend financièrement de l'un des deux. Je crois que même dans la tête, c'est difficile. Donc en effet, mais je crois qu'en effet à notre époque aussi, il y a tout est choix, heureusement. On a le choix de dire j'accepte de vivre à la maison et de m'occuper de mes enfants. Je trouve que c'est plus important de gagner ma vie et d'être libre. Il y a des étapes aussi dans la vie, je crois. Moi, mes enfants sont grands, je me sens beaucoup, beaucoup, beaucoup plus libre qu'avant. C'est juste, je peux mieux profiter de cette liberté. Mais ça reste quand même des choix. Et je crois que si dans un couple, comme je l'ai vécu quand je vivais en couple avec mon ex-compagnon il y a encore quelques années, on avait décidé de partager les frais. Parfois, je gagnais plus, parfois, lui gagnait moins. Mais on s'était mis d'accord aussi que ça ne limitait pas notre liberté. En fait, il n'y a pas de règle. C'est de s'organiser entre soi. C'est tout, en fait. Notre société, tout ce que Françoise a raconté, tout ce qui nous a obligés à vivre des choses, c'est qu'on nous a bourré le crâne depuis des siècles, qu'il y a des choses qui se font et des choses qui ne se font pas. Mais c'est totalement faux. La seule chose qui se fait, c'est de s'organiser entre soi. Même dans les révolutions qui ont lieu actuellement, les indignés, c'est ça qui apparaît, c'est qu'on se réorganise. Et les gens sur ces places ont compris en vivant en communauté avec des mélanges incroyables. À Bossé, il y a beaucoup de SDF, de gens alcooliques. Eh bien, ils font partie du mouvement et ils changent. Ben, on fait avec. Et je crois que c'est ça, il faut se réorganiser.
Catherine a raison, l'indépendance des deux est bien parce que s'il y a une personne dans le couple qui apporte tout l'argent, il a forcément, ou elle a forcément, le pouvoir et la domination. Et comme justement le polyamour s'est basé sur le refus de cette domination, c'est compliqué. Donc l'indépendance financière, oui. Par contre, pas forcément des très hauts revenus. On peut avoir un petit boulot, mais s'il y a deux petits boulots ensemble, ça va.
Une chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi le polyamour est tellement mal accepté, on va dire ça ainsi, alors que l'homme ou la femme qui va voir à côté, en secret, en cachette, et surtout, il ne faut pas le dire, là, ça passe finalement relativement bien, même par rapport à ceux qui sont témoins d'eux, pour peu qu'ils ne soient pas, entre guillemets, la victime. Et pourquoi même par rapport à des gens qui vont voir ailleurs, à chaque fois qu'ils en ont l'occasion, l'idée du polyamour passe tellement difficilement. Est-ce que ce besoin de pouvoir sur l'autre est tellement fort que c'est ça qui pose problème? Est-ce que c'est autre chose? Enfin, je ne sais pas.
C'est-à-dire que l'adultère ne se situe pas dans la même logique. L'adultère, c'est une transgression et c'est essentiellement sexuel. Enfin, il y a aussi des liaisons amoureuses quand même dans les adultères, mais il y a une grande dominante sexuelle, ainsi que les gens qui ont des expériences amoureuses ailleurs, ponctuelles, je veux dire, et cachées. Mais surtout, ça ne remet pas en cause, l'adultère ne remet pas en cause ni le mariage, ni la société telle qu'elle est. Elle met la personne en état de transgression et de culpabilité. Il y a un homme adultérin qui m'a dit, je vais voir ailleurs, mais je suis déjà punie puisque je reviens en me sentant coupable à la maison. Donc il reste dans la même notion de sexualité coupable. Or, la sexualité coupable, je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même la base de notre société marchande, la frustration. Tandis que dans le polyamour, on décide que ça n'est pas coupable, que c'est libre et que c'est ouvert et que ça n'a rien de honteux. Donc on enlève cette honte éternel que les religions et les États ont mis sur la sexualité. Donc je pense que c'est pour ça. Mireille Dumas, à une émission, m'avait dit « Mais vous êtes pire que tout le monde, vous parlez de sexe avec naturel. » Et le tout le monde dont elle parlait, c'était les autres invités, c'était des acteurs porno, des fétichistes, enfin il y avait des tas de gens avec des pratiques sexuelles étranges, et moi je lui avais juste parlé de mon épanouissement à aimer les hommes et à me sentir bien avec eux. Et ça, elle avait été complètement atterrée, parce que le fait de dédramatiser la sexualité, ça enlève un des éléments clés qui fait que les gens sont soumis.
Juste pour revenir au problème pécunier, je ne pense pas que l'argent soit vraiment quelque chose qui pose problème. À partir du moment où on est amoureux, le fait du don financier n'est pas un problème. Je crois que pour vivre le polyamour, il faut le vivre avec des gens qui ont envie de vivre, qui ont envie de vivre, qui ne sont pas dépendants socialement ou dépendants psychologiquement de la personne. m'est impossible de vivre avec des personnes qui sont en attente de moi. Mmh. Maintenant, au niveau argent, moi, je suis assez généreux. On en a déjà discuté en café poli. On est bien souvent, en tant que polyamoureux, on est bien souvent beaucoup plus généreux que certains monogames. Et le généreux est multiplié par le nombre de relations que l'on a. Mais c'est le problème surtout psychologique d'avoir quelqu'un qui serait dépendant psychologiquement ou dépendant en attente de ma présence. Il faut, pour vivre le polyamour, il faut vraiment vivre avec des gens qui ont envie de vivre et qui ne seront pas là à se morfondre parce que vous n'êtes pas là. Le problème de la vie de couple, je ne vis pas en couple, mais je pense que c'est même pas un problème au niveau du polyamour. On pourrait très bien être en couple sans être marié, avoir des relations communes ou des liens communs pour des dépenses financières et pour autant vivre de manière polyamoureuse.
Oui, c'est tout à fait vrai quand tout va bien dans la relation, parce que c'est vrai que quand on s'aime et que normalement l'argent ne devrait pas rentrer en ligne de compte comme un élément de dominance. Mais comme on sait que dans n'importe quelle relation amoureuse, y compris les polyamoureuses, il peut y avoir des hauts et des bas, en période de bas ou de conflit, l'argent peut redevenir un argument. Du style, oui, mais de toute façon, sans moi, tu serais rien. Tu peux t'en aller si tu veux, mais qu'est-ce que tu vas faire, pauvre petite, tu gagnes pas ta vie. Chose que les femmes mariées se sont beaucoup entendues dire lorsqu'elles ne travaillaient pas. Tant qu'il n'y a pas de problème, tant qu'il n'y a pas de conflit, c'est vrai que tu as raison, il n'y a pas besoin d'avoir d'argent, que les deux en aient, etc. Mais disons que le fait d'être indépendant financièrement, ça désamorce bien des conflits.
Oui, encore une petite facette qui n'a pas été pour moi abordée, c'est le fait de l'enfance, et que pendant l'enfance, notre esprit, n'étant fait encore de rien, va s'imprégner, se nourrir de tous les schémas qui nous entourent et que nous allons les répéter tout au long de notre vie. Donc si on veut sortir de ces schémas, il faut sortir de notre zone de confort et briser ces schémas pour établir autre chose. Sans ça, il ne se passera rien. Ici, une petite pincée là de personnes qui ont cassé certains schémas sans doute, voire viré leur cutie, je ne sais pas, mais enfin voilà. Donc je pense que tant qu'on n'aura pas changer l'approche, l'éducation des enfants, on ne va pas changer grand-chose. Il n'y aura pas de révolution, entre guillemets. À tout niveau, hein. Pas seulement celle-ci.
Pour les enfants, c'est assez marrant parce que finalement, j'ai fait un petit dîner de polyamoureux chez moi il y a une quinzaine de jours et on parlait des enfants parce qu'on en avait tous. Et que font des parents, qu'ils soient poly ou mono, ils aiment bien parler de leurs enfants, donc on a commencé à en parler. Et il y a une des femmes qui était là, qui est une petite fille, qui ne raconte évidemment pas tous les détails de sa vie amoureuse à sa petite fille, mais sa petite fille sait très bien que de temps en temps elle sort avec un monsieur ou un autre qu'elle présente comme un ami. Mais la petite fille est à 6 ans, lui a dit alors t'as des amoureux toi, hein? Alors du coup elle a pas menti du tout, elle a dit oui j'ai des amoureux et puis j'ai ton papa, je te t'aime, etc. Et la seule question qu'elle lui a dit c'est mais vous allez pas divorcer, hein? Alors elle dit non, on n'a pas l'intention de divorcer, c'est parce que papa aussi il a son amoureuse. Alors ça va. Donc en fait, quand c'est présenté de façon dédramatisée, eh bien les enfants, et il y en a eu un autre qui a eu le même témoin, le seul crainte qu'avait le petit garçon, c'était que ses parents se séparent.
Mais moi je voulais juste simplement revenir sur le fait là, que j'ai cette impression là qu'on attaque un peu le mariage depuis tout à l'heure là, comme si les polyamoureux c'était leur combat de se battre contre le mariage. Mais je trouve que avant toute chose, la révolution qu'on fait est en soi, et c'est une révolution individuelle avant toute chose. Donc, peu importe tout qu'on fait la société dans laquelle on vit, si on est notre propre société, c'est là l'anarchie, c'est l'amour. C'est pas un combat régulier contre une société ou ses actionnaires. Moi, je trouve ça un peu dommage. Je trouvais ça simplement.
Voilà. Non, je suis d'accord avec toi, c'est pas le mariage. Enfin, on n'attaque pas le mariage en tant que soi. Moi, je suis mariée, j'ai même fêté mes 38 ans de mariage il n'y a pas longtemps, donc finalement, je suis restée dans l'institution. Mais en même temps, j'ai complètement conscience que le choix que j'ai fait est un choix personnel, même si mon mari l'a fait aussi. On l'a fait chacun, sans doute pas forcément pour les mêmes raisons, parce qu'il m'a dit très sincèrement au début, il trouvait ça surtout très confortable de pouvoir avoir des petites amies sans risquer de se faire révolvériser au retour. Donc lui, il avait vu un aspect très, très pratique. Et même encore aujourd'hui, il me dit intellectuellement, j'ai pas fait la même démarche que toi, je l'ai vécu, mais viscéralement, je suis moins convaincue que toi. Mais c'est pas grave, ça, chacun a eu sa démarche. Il se trouve qu'on s'est accompagné dans cette démarche, il se trouve qu'on se trouve très bien à vivre ensemble et qu'on est heureux. Mais donc j'ai pas d'attaque du mariage, simplement je parlais du mariage en tant qu'institution créée pour maintenir un certain ordre public. Et c'est même la raison pour laquelle je me dis c'est encore mieux d'être polyamoureux quand on est dans l'institution du mariage, parce qu'on prouve qu'on peut faire différemment à l'intérieur de cette institution contraignante.
Le mariage, voilà, oui. Il y a moyen de révolutionner de l'intérieur, c'est plus intelligent quand même, montrer du doigt l'extérieur. Tout combat est intérieur d'abord.
Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'enfance, moi je vois, avant que les enfants soient réellement conditionnés par la société d'aujourd'hui, quand on a 4, 5, 6 ans, il n'est pas rare d'entendre les enfants dire « j'ai 3, 4, 5 amoureux, amoureuses ». C'est très fréquent, c'est même, je pense que tout le monde est passé par là en fait.
Mais c'est vrai que moi je suis assez d'accord avec Sébastien pour dire que le mariage n'est pas antinomique du polyamour. Bon, ça ne doit pas forcément aller ensemble, mais que ça permet aussi de montrer qu'il est possible de changer de l'intérieur sans se mettre forcément tout à fait en marge et d'être une minorité complètement sur le côté, et qu'on peut avoir une relation principale avec laquelle on est marié ou pas. Enfin, donc je dis, ça peut très bien aller ensemble. Pour revenir aussi sur la question de l'autonomie financière, ce que je trouve important, c'est qu'on ait un réel choix de rester ou de partir. Et donc, si financièrement on est un peu coincé, ben, ce n'est pas un vrai choix. Tandis que si je suis avec ma compagne, mon compagnon, par vrai choix, par amour, là je trouve que ça a un sens. Et dans le polyamour particulièrement, je trouve qu'on a la possibilité de se dire, si on est heureux, s'il y a du plaisir, eh bien on reste. Et par contre, si on constate que le but n'est pas de durer pour le plaisir, mais qu'on est arrivé au bout d'un chemin, eh bien c'est un vrai choix de se dire, on peut faire avec ou séparément.
Moi je vais juste poser une petite question à Thomas, parce que j'avais trouvé, et je l'ai revu ici au sol, uniformisation. C'est une chouette brochure que vous avez faite, qui est là depuis un an, je pense, Bruxelles Laïque. Non, c'est vraiment l'idée. C'était le festival l'année dernière. Et donc, en lisant ce qu'il y a dedans, c'est vrai qu'on a l'impression qu'en tant que polyamoureux, on pourrait peut-être participer à quelque chose de... Voilà. Et donc, je voulais voir, tiens, en fin de compte, dans vos débats en interne ou dans la maison dans laquelle on est aujourd'hui, est-ce que c'est des discussions... Parce que je sais que vous préparez beaucoup aussi vos campagnes, qu'il y a beaucoup de discussions aussi. Est-ce que, tiens, tu as eu à un moment donné, à l'époque... Tu as eu vent de certaines ouvertures, ou est-ce que le monde laïque, tout d'un coup, par rapport à cette discussion-là, mais ça peut faire lien avec ce qui a été dit avant aussi. Voilà, une petite question.
Justement, pas parler au nom de je ne sais quel monde laïque. Hein. Ça, c'est dur à décrire. C'est un panier de crabes ou une constellation, selon les mythologies auxquelles on se réfère. Mais pour ce qui est du festival, donc c'est, en fait, dans ce cas-là, on vous avait invité. La brochure ici servait de cahier thématique. Je vous invite à l'ouvrir, il y a toutes sortes d'articles, ça part dans tous les sens, etc. On a parlé de la religion comme outil de contrôle à travers le mariage et comment est-ce qu'on arrive à instaurer une domination qui est double d'ailleurs, parce que l'un comme l'autre se retrouve coincé dans un truc duquel il n'est pas spécialement facile de sortir. Et je ne pense pas qu'il faille tout mettre sur la religion. Voilà, l'État a son lot, on l'a dit, le mariage est quelque chose de civil. Le mariage fiscal est civil avant d'être religieux, et c'est avec lui qu'on a affaire aujourd'hui. Le fait est que, question de l'uniformisation, on fait ça parce qu'on essaye de prendre un thème qui est assez racoleur, dans le sens où c'est un tiroir qu'on ouvre, il y a plein de choses qui en sortent, beaucoup de questions qui se posent, et il ne fait pas peur d'emblée. Quoi. Si on dit la révolution mondiale est pour demain, on a un CA qui ne va pas être très content, des gens qui ne vont pas oser venir, qui vont traiter de gauchis, etc. Et d'ailleurs, on ne serait pas d'accord dans l'équipe pour... etc. Mais par contre, c'est toujours des thèmes qui sont des ouvertures. C'est là-dedans que le polyamour se trouvait vraiment une place intéressante, et que les questions qui viennent d'être posées ici d'emblée sont toutes hyper pertinentes à ce niveau-là. Quoi. Comment est-ce que... On veut, nous, on est gentils, on veut juste vivre simplement et s'aimer, et regarder tout ce qu'on nous met dans les pattes. Quoi. Et vivre simplement et s'aimer, ben, ça suppose aussi, du coup, de ne pas forcément faire comme tout le monde. Et alors, c'est tout le rapport, une réflexion qui est fort liée à cette question d'uniformisation, c'est le rapport à l'autre et à l'altérité. Quoi. Racisme, etc., mais l'autre, la norme, la normale, le fou, le déviant, etc. Je pense que si on se regarde chacun dans un miroir, on va vite... se rappeler que de temps en temps, quand on croise un gars en rue, on le prend quand même pour un sérieux taré qu'on n'a pas trop envie de fréquenter, ou du contraire d'ailleurs, on est spécialement attiré par un sacré taré, mais peut-être pas par le mec qui a l'air trop normal, etc., etc. Et quand on demandait pourquoi est-ce que les polyamoureux sont mal vus, et notamment par les gens qui sont dans l'adultère traditionnel, comme on pourrait dire, ça touche vachement à cette question-là aussi, quoi, qui est Ben, c'est d'abord quelqu'un qui est différent et qui l'affirme, comme les homos dans leur temps, qui sortent du lot et qui... En fait, nous, on est PD, hein, donc faites comme vous voulez, mais nous, voilà, comme ça. Alors, au début, ça choque. Aujourd'hui, maintenant, finalement, ça choque encore ceux qui en ont fait une profession d'être choqués, mais ça, c'est plus ou moins rentré dans les mœurs. Ben, je pense que c'est d'abord cette dimension-là d'accepter l'autre comme ben, il est différent. C'est-à-dire qu'il y a une complexité que je m'accorde à moi-même. C'est peut-être pas idiot d'accorder la même complexité à l'autre.
La norme, c'est aussi la moyenne de toutes nos folies. Et en contradiction avec ce que tu viens de dire, je suis pas du tout d'accord de dire que le mariage, c'est avant tout un problème public. Hein. Il faut pas oublier d'où il vient. Oui, mais il faut pas oublier d'où il vient. Et il est avant tout religieux. Il faut pas oublier qu'en Belgique, le poids de la religion catholique est encore énorme. Pour en revenir à un autre point qui a été évoqué, comment veut-on faire évoluer le monde si on continue à avoir la moitié de l'enseignement belge qui est subsidié par tous, mais dans un univers confessionnel? Alors, il y a des tas de gens qui ont son professeur à l'ULB, par exemple. Hein. L'ULB, c'est quoi? Libre pensée, d'accord? Et qui mettent leur gosse dans l'enseignement catholique. Va comprendre. Alors, toutes les idées catholiques, on parlait de normes, il ne faut pas oublier que, de nouveau, on en revient aux relations. Hein. Comment veut-on que les personnes évoluent, les enfants? Le problème du progrès social, c'est que nous mourons. Donc, tout est à recommencer chaque fois. Si on programme nos enfants comme nous avons été programmés, nous, la programmation parentale, mais dans le sens large du terme, c'est-à-dire que l'enfant ne choisit pas l'école dans laquelle il va. L'enfant ne choisit pas la religion dans laquelle il est élevé. D'accord ? Il est obligé, s'il veut s'en sortir, de se rebeller contre ses parents et les dogmes qu'on lui enseigne. Or, ces dogmes, désolé, ils ont été faits il y a des années, à une époque où la durée de vie était moyenne de combien ? 25 ans en criant très fort, d'accord ? Avec des femmes qui se retrouvaient enceintes tous les ans, qui la plupart du temps mouraient en couche. Dans ce cas-là, c'est très simple d'avoir une relation unique, exclusive et éternelle. Nous en sommes loin. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure avec l'évolution d'une relation. Il ne faut pas oublier que, et comme demandait madame par exemple, quand une femme se retrouve enceinte, elle a quelques difficultés à vivre seule. Et il est normal à ce moment-là, et j'en connais ici en face de moi, qui quelque part ont mis leur relation entre parenthèses, leur autre relation entre parenthèses. Et donc, à ce moment-là, à partir du moment où les enfants sont à nouveau, c'est un problème que nous, on a éventuellement moins, où les enfants commencent tout doucement à devenir plus indépendants, les femmes peuvent à nouveau reprendre des relations autres, multiples. Et ça, il est essentiel que chacun fasse le combat pour lui, mais également pour ses enfants. Si on continue à les éduquer, et les dogmes se retrouvent dans les contes de fées, dans les films, dans les émissions TV, etc. Et en Belgique, c'est très loin. Hein. N'oubliez pas qu'il y a quelques jours d'ici, il y avait une manifestation contre la législation sur l'avortement. Hein. N'oubliez pas ça. Ce n'est jamais acquis.
Attends, oui. Je voulais juste faire une petite remarque sur les... Bon, d'abord, les enfants, ils sont quand même... s'ils sont élevés par des parents polyamoureux, je pense qu'ils auront une éducation qui sera un peu différente. Hein, donc déjà, ça changera. Et alors, attends, juste, ça m'a échappé ce que je voulais te dire. Eh ben, ça me reviendra tout à l'heure, c'est pas grave.
Oui, je voulais dire, en Belgique, c'est un pays qui a comme symbole fondateur dans sa constitution la transmission des privilèges héréditaires, puisqu'il y a un roi. Et il est au droit divin puisqu'il y a une messe chaque année en son honneur. Et donc, toutes les lois sont faites dans ce sens, c'est-à-dire les héritages, quand on est en ligne directe, on paye quasiment rien en droit de succession, et les enfants nés hors mariage n'ont aucun droit. Donc, le mariage n'est pas neutre et n'est pas juste une formalité qui laisserait la même liberté en dehors, non.
Oui, moi je voulais poser une question. Je suis nouvelle aux idées du polyamour et en fait je me demandais si c'était pas une évolution dans sa vie. Par exemple, est-ce que les gens en général, au bout de 10, 15 ans d'union, c'était une idée qui développait. Disons qu'on a besoin peut-être de vivre un amour exclusif, peut-être au départ, pour après s'ouvrir aux idées du polyamour.
Je pense que ça, ça a été vrai dans les tout débuts. Enfin, moi, quand j'ai commencé très tôt, puisqu'on a commencé à y réfléchir, on n'était même pas encore mariés, hein, donc j'avais 19 ans. Et à l'époque, effectivement, la plupart des gens disaient « oui, ça c'est des choses, mais une fois qu'il y a la lassitude conjugale et autres ». Mais c'est de moins en moins vrai, parce que je vois dans les cafés polis qu'on a à Paris et dans le forum, on a énormément de jeunes, et des jeunes qui sont plutôt aux alentours de 20, entre 20 et 30 ans, qui s'interrogent parce que d'abord beaucoup sont issus de familles recomposées. Donc ils se disent « tiens, ce mariage qu'on nous présente comme exclusif, qu'on nous présente comme la seule solution, il se casse quand même vraiment souvent la figure ». Et l'idée, c'est pas de remplacer un modèle par l'autre, c'est pas de dire faut remplacer par du poly, c'est simplement d'ouvrir les portes et de dire à chacun de vivre. Il y a des gens qui sont très bien en étant monogame exclusif, on voit pas pourquoi on les en priverait. Mais par contre, pour ceux qui ne sont pas bien, on voit pas pourquoi on nous impose ce modèle. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est une interrogation qui se pose certainement pour ce qu'avait dit monsieur tout à l'heure, parce qu'il y a une augmentation de l'espérance de vie, mais aussi parce qu'en ce moment où s'ouvrent de nouvelles valeurs, et là on revient avec le lien avec le contexte social, on s'aperçoit qu'on a besoin de valeurs d'ouverture, de valeurs de partage, de valeurs d'humanité, qui sont à l'opposé, finalement, le polyamour, c'est à l'opposé des valeurs de brutalité, d'appropriation de l'autre, de domination, dont on s'aperçoit aujourd'hui que le système qui les a fait est à bout de souffle, ne va pas bien, crée des conflits, crée partout des guerres, et que peut-être les jeunes qui s'intéressent au polyamour, c'est aussi parce qu'ils s'intéressent à leur avenir à un sens plus large, en se disant, mais on n'a pas envie de vieillir dans un monde de brutes comme celui qu'on a actuellement, donc il faut absolument changer. Le polyamour est une façon pour eux d'en changer parce qu'ils ont prise là-dessus. Ils peuvent y réfléchir, ça les concerne personnellement, donc c'est un premier changement qui en induira d'autres. Mais pour répondre, monsieur, sur la question des grossesses, quand il dit une femme qui est enceinte est obligée de mettre entre parenthèses ses autres relations pour reprendre le polyamour après, je ne crois pas que le polyamour oblige à avoir en permanence des relations autres. Moi, il m'arrive de traverser des périodes monogames, des périodes solitaires, des périodes très agitées, etc. C'est simplement que, mais dans ma tête, y compris quand je suis solitaire à un endroit où je n'ai aucune relation avec qui que ce soit, je me considère toujours comme polyamoureuse. C'est-à-dire c'est un état d'esprit, un état d'esprit qui laisse la porte ouverte à ce qui peut se passer, mais s'il ne se passe rien, ce n'est pas grave non plus. C'est-à-dire, il ne faut pas remplacer une contrainte par une autre, il ne faut pas s'enfermer non plus en disant le polyamour c'est ça, et là, si vous faites comme ça, ce n'est pas du vrai.
Moi, il y a une question qui m'interpelle dans le terme du, pas du polyamour, mais du polyamoureux et polyamoureuse. Et où vous faites-vous une distinction entre lutin et lutine, par exemple ? Donc lutin et lutine plutôt que polyamoureuse et polyamoureux. Moi, il y a trois mots qui m'interpellent dans l'individuation, l'engagement et la fidélité. Donc, si je me réfère à l'état amoureux, comme on l'entend, donc ce que j'entendais, ce que j'ai entendu en tout cas, il serait intéressant en tout cas qu'une relation polyamoureuse commence par un état amoureux. Si on part du principe que l'état amoureux biologiquement ne dure que 3 ans au grand maximum, je me pose la question, l'individuation, l'engagement et la fidélité. Alors, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de parler plutôt de polyaimant et de polyaimante que de parler de polyamoureux, qui fait référence pour moi, dans cette terminologie-là, essentiellement à l'état amoureux, qui peut être un état passager et qui peut peut-être justement expliquer pour certaines personnes la peur de l'engagement, même que ce soit de courte ou de longue durée, peu importe. Mais moi, je m'interpelle par rapport à ça. Donc, c'est une question que je dépose.
C'est peut-être un peu purement une question sémantique. Il y a des gens qui pensent que amoureux, ça veut dire passionnel. Et il y a des gens qui pensent que amoureux, ça veut dire aimer, aimer profondément, mais sans forcément être dans la passion. C'est exact que la passion, c'est un état pathologique hormonal qui dure pas très longtemps. Mais on peut rester amoureux de quelqu'un sans avoir cette passion complètement délirante. Donc moi, je dis polyamoureux parce que je trouve que le terme amoureux est joli. Mais je peux dire aussi amant ou amante, hein, ou je peux dire ami ou amie. Pendant très longtemps, je disais que championne du monde de la camaraderie amoureuse ou de l'amitié amoureuse. Donc c'est plutôt sémantique, mais je crois que l'état amoureux c'est bien parce que ça montre que c'est au-delà d'une pure attirance sexuelle, que c'est autre, ce n'est pas que de l'attirance sexuelle, et que c'est aussi au-delà de l'amitié. Donc l'état amoureux qui n'est pas forcément passionnel, il peut l'être tout à fait au début, parce que c'est vrai que quand on rencontre quelqu'un de nouveau, on a tous ce petit moment plus ou moins. Moi je l'ai de moins en moins parce que maintenant franchement, pour que j'aie de la passion pour un homme, il faut vraiment qu'il sorte de l'ordinaire. Mais bon, on le traverse toujours à un moment ou deux de sa vie. Non, justement. Ah, je trouve pas ça triste du tout parce que je me suis les deux grosses passions que j'ai eues dans ma vie, j'ai été ravie de les connaître. Et puis après coup, avec le recul, je me suis dit mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut être bête quand on est passionné. Et j'étais très contente d'en sortir, vraiment très contente. Et je suis toujours, toujours depuis 20 ans, on va fêter nos 20 ans avec l'homme que j'ai aimé passionnément il y a 20 ans. Donc je suis restée en état amoureux avec lui, mais par contre plus du tout en état passionnel. Fidèle aussi, de quelque sorte, puisqu'il est toujours dans ma vie. Mais bon, c'est vrai qu'il y a peu de gens que je lâche dans ma vie, ou alors ils disparaissent parce que la vie veut ça. Mais amoureux, je trouve que c'est joli comme terme. J'aime bien ce terme polyfidélité, les gens comprenaient pas bien. Voilà, c'est purement sémantique. Hein, si vous préférez dire poly-amant ou poly-aimant, pourquoi pas hein.
Moi, je vais partager mon expérience. C'est vrai qu'on cherche un mot pour expliquer au fait ce qu'est la liberté. La liberté d'aimer. J'aimais bien ce que vous aviez dit en tant qu'enfant. Moi, c'est ça. Quand j'étais enfant, j'étais amoureuse, mais de plein de monde. Plein de monde. J'ai pas arrêté. Mais c'est vrai que je suis passée aussi par le truc, mais c'est pas bien et tout. Puis un jour, on s'est dit, maintenant, j'assume. Mais c'est un mot qu'on se donne comme ça, parce que j'ai des amoureux avec lesquels j'ai toujours mon cœur qui bat, mais il ne se passe plus rien de sexuel. Ou il y en a d'autres où ce n'est que sexuel. Et puis bon, il n'y a pas de loi, en fait. C'est ça, quoi. C'est le senti et c'est le respect. Et j'ai envie de dire le respect. Il y a d'autres amoureux qui m'ont dit, moi, je ne peux pas supporter ton style de vie. On s'est séparés. Et puis, il vient quand même loger toutes les semaines chez moi. Et... Voilà, donc, mais il ne veut pas qu'on se touche, on n'est pas dans le même lit. Et je dis, bon, ok, je respecte, je n'ai pas à imposer non plus, mais on sent que l'attachement est là, donc peu importe le nom, en fait. Du moment qu'on se respecte et qu'on vit ce qu'on sent, et que son cœur sent, moi, j'ai personnellement aucune difficulté à avouer ouvertement à tout le monde, mes amis et les gens, je suis polyamoureuse, mais j'ai l'avantage d'être artiste, donc les artistes, on excuse tout. Et c'est vrai, vraiment, c'est vraiment un avantage. Et j'ai pas de patron, donc et encore, ça m'attire des clients parce qu'il y a la curiosité qui vient. Donc ça me fait du bien, quoi. Ça me fait ma pub. Mais est-ce que parmi vous, ceux qui sont polyamoureux ou pas, est-ce que vous avez des facilités à le dire? J'ai envie de dire, c'est pas obligé de faire du coming out, mais pourquoi pas? Moi, c'est vrai que le jour où j'ai osé l'avouer. Franchement, comme ça, mon Dieu, quelle légèreté, quoi. C'est... Voilà.
Je voudrais revenir sur ce que disait ma voisine, donc sur la question de savoir est-ce qu'après quelques années de vie de couple, c'est un besoin de sortir d'une routine, de faire autre chose, de peur de l'enlisement. Je reviens à mon cas personnel où, en fait, mon épouse et moi, on vient de fêter nos 10 ans de mariage. Et donc, ça ne fait qu'une grosse année que nous sommes dans le polyamour. Et je dirais que c'est plus suite à un cheminement personnel qu'on a eu la chance ou l'intelligence de mener conjointement. Et en fait, il y a 10 ans, 5 ans, je pense que nous n'étions mûrs ni l'un ni l'autre pour le faire. Parce que, donc si on l'est maintenant, c'est pas par volonté de pimenter le couple comme d'autres iraient en club échangiste, etc. C'est parce que on mène une sorte de réflexion, d'évolution spirituelle qui nous fait passer par ce cheminement où le polyamour est une façon justement de réussir à développer une sorte d'autonomie personnelle, affective, de bien se connaître, d'ouvrir des libertés, des possibilités. Donc je dirais que c'est entre guillemets un peu par hasard que le polyamour vient s'intégrer dans ce cheminement, dans cette réflexion, et qu'il y trouve sa place. Mais je pense que plus jeunes, n'étions pas mûrs. Maintenant, d'autres sont plus précoces et peut-être le font à 20 ans, mais je pense qu'il faut d'abord acquérir une importante confiance en soi, une confiance dans son conjoint, si on a un conjoint régulier, pour justement
oser se donner ses libertés et que souvent, en tout cas nous, en début de relation, nous n'avions ni la confiance en nous, ni la confiance suffisante dans la solidité du couple. Et donc, c'est venu après un certain temps. Et donc, ce n'est pas, je dirais, par lassitude ou autre, c'est parce qu'il a fallu que le cheminement se fasse.
Oui, c'est certain. Je pense qu'il y a un cheminement et qui peut être long. C'est une réflexion. Dans ce que vous racontez, c'est vraiment un cheminement vers le polyamour. Ce n'est pas, pour combler la routine ou le fait qu'au bout de 10 ans, on en a un petit peu assez. C'était effectivement le côté pour pimenter ma vie amoureuse, je vais rentrer dans le polyamour. Ça, je crois que c'est une profonde erreur. Mais quand c'est parce que, en réfléchissant sur ce qu'est le lien, on se dit, mais dans le fond, c'est vrai que c'est totalement naturel, ça va de soi. Aujourd'hui, c'est presque la monogamie qui me semble très, très étrange. Hein. Je conçois très bien que certaines personnes aient envie d'être monogames, mais pour moi, c'est quelque chose qui est totalement étranger à mon univers de pensée. Voilà. Et vous, vous êtes en train de faire le chemin, de voir que le polyamour peut être quelque chose qui vous convient. Et c'est vrai que les jeunes dont je parlais tout à l'heure, ils y réfléchissent parce qu'ils ont envie de réussir leur vie amoureuse, mais il est probable que sur 10 qui réfléchissent au polyamour ou qui le vivent actuellement, un certain nombre, à un moment donné, vont repartir vers la monogamie et que ça aurait été juste une période transitoire à un moment où ils n'arrivaient pas vraiment à se fixer, où ils n'avaient pas envie. Et puis se pose pour eux la question des enfants, parce que ça, c'est une question que je voulais vous poser. Quand il y a un couple et qui décide ensuite d'avoir du polyamour, généralement, ce couple fait ses enfants au sein du couple. Mais on connaît, moi, je connais plusieurs polyamoureux qui ont commencé en étant polyamoureux. Donc, ils se posent une question qui est infiniment cruciale, c'est avec lequel je fais mes enfants ou est-ce que j'en fais avec plusieurs? Et ça, c'est des vraies questions, parce qu'après, il y a, j'allais dire, comment éduquer ses enfants, comment leur expliquer, comment les faire rentrer dans des lois qui ne sont pas faites pour eux. Justement, on en revient au droit. Est-ce que c'est des questions que vous vous êtes posées, vous, en choisissant le polyamour? Moi, de poser des questions, quand même.
Je voudrais bien rebondir sur le problème sémantique, parce qu'on a, on a échangé pas mal de messages sur le problème. Il y a des textes qui existent sur le site, et je renvoie les différentes personnes à aller voir ces textes qui sont bien développés. Un, pour moi, l'amour, ça n'existe pas. Une relation passe, la plupart du temps, peut commencer par ce qu'on appelle un état amoureux. Et à ce moment-là, on se trouve dans un déclenchement hormonal qui fait en sorte qu'on se trouve dans un état fusionnel. Et comme faisait bien remarquer madame, cet état fusionnel ne dure qu'un certain temps. C'est automatique, je dirais. Bon, il est possible, comme nous sommes tous différents, que toutes les relations sont différentes. Il est possible que chez certains, cet état perdure pour différentes raisons. Par exemple, chaque fois qu'on fait l'amour, il faut bien être conscient qu'on augmente des hormones dites de lien, etc. Si on fait des enfants, forcément, il va y avoir des buts qui vont augmenter le lien dans la relation proprement dite. Mais cette relation, il faut voir qu'une relation, ce n'est pas quelque chose d'infini, c'est quelque chose de fini et qui évolue. Le contexte de chacun évolue, chacun vit dans son monde, chacun évolue. Il est tout à fait normal qu'une relation, à un moment donné, disparaisse, se dilue. Il y a d'autres relations qui peuvent apparaître.
Je m'excuse, mais je ne suis pas tout à fait français, mais je vais quand même essayer. Est-ce que le danger n'est pas dans le polyamour qu'on a des différentes relations, tout va bien, manger, faire du plaisir, et quand c'est difficile? Au revoir, merci beaucoup, je trouverai un autre. Je veux dire, on continue, alors, on est déjà dans une société de la consommation. En fait, parce que dans une relation que vous avez des, on dit en flamand, rechten en plichten, comme on dit en français, c'est pas seulement les choses gays, mais c'est les choses, la vie, c'est parfois des choses pas gays, et c'est les deux ensemble qui construisent des bonnes relations, approfondir des relations, tu vois. Voilà, j'ai une question là-dessus.
Je crois justement que c'est la caractéristique du polyamour par rapport justement au libertinage ou aux gens qui vont chercher des relations sexuelles adultérines à côté, c'est que ces relations sont des relations complètes qui ont à la fois du sexe, de l'affection, des échanges intellectuels, et également le partage d'un tas de choses. Je sais que parmi les hommes de ma vie, bon, ben, il y en a un qui, à un moment donné, a eu un cancer, dont il est mort. Moi, je l'ai suivi jusqu'au bout. Il me venait pas l'idée. Là, récemment, j'ai rencontré un autre qui commence à ne plus être tout jeune, qui m'a dit, tu sais, à un moment donné, ça va se gâter pour moi. Je lui ai dit, ben oui, c'est vrai, mais ça empêchera pas que je continuerai à t'aimer. Je lui ai dit, je veux continuer à te voir, parce que on ne se voit pas que pour le sexe, parce que, en plus, je le connais depuis plus de 30 ans. J'ai passé la période hormonale. Donc si depuis plus de 30 ans, je veux continuer à entretenir cette relation, c'est qu'il y a des choses infiniment plus grandes. Et s'il a un problème, à un moment donné, c'est arrivé avec certains hommes, qu'ils aient une question de travail ou un renseignement à me demander. Enfin, ce qui fait la vie, quoi, la relation de la vie. J'ai toujours été présente. La seule chose qui est difficile, je crois pas la plus difficile dans le polyamour, c'est que ça demande beaucoup d'énergie et de temps. Et que ben voilà, qu'on peut pas en avoir 50 non plus, quoi, parce que si on veut que ça soit des vraies relations, où justement il y a tout ce que vous dites qui fait une vraie relation, et qu'on dise pas au revoir quand il y a plus de plaisir, parce que on est au-delà du plaisir, il y a autre chose que le plaisir. Et on réfléchit aussi à ce qui fait une relation. Je sais pas pour vous, mais j'ai remarqué que beaucoup des gens qui sont dans le polyamour ont justement énormément réfléchi sur la consommation. Consommation pas seulement sexuelle, hein. C'est leur rapport à la consommation. Il y en a beaucoup qui n'ont plus la télévision. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'ai constaté ça. J'ai constaté qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui s'interrogent sur la notion de genre, c'est-à-dire en disant il n'y a pas d'un côté les hommes, de l'autre les femmes et éventuellement les homos au milieu. En fait, c'est une espèce de curseur avec des pourcentages qui vont de féminité à masculinité et qui créent des genres et que soi-même, on peut évoluer dans sa façon d'être avec les genres et dans sa façon d'être avec les femmes si on est une femme, les hommes si on est un homme, sans pour autant s'étiqueter homosexuel ou hétéro ou bi ou trans. On a eu une grande réflexion sur le genre. Donc je crois que ça ouvre à plein de réflexions sur les diktats et sur les normes d'une société, puisque justement ce qu'on a fait, c'est d'aller au-delà de cette norme et de s'apercevoir qu'on y trouve du bonheur.
Peut-être il y a beaucoup d'ignorance de ma part sur le polyamour, mais j'ai la perception qu'il y a un certain... Enfin, j'arrive ici depuis une recherche intellectuelle, depuis le livre « Sexe à donne », que je pense qu'il va sortir en français fin de l'été. Mais j'ai commencé à chercher en Internet pour dire que ce n'est pas possible qu'il y a plus de gens qui font cette réflexion. Et je trouve qu'il y a un côté marginal. Enfin, je trouve que c'est un groupe petit. Finalement, je ne rencontre pas beaucoup, à part de votre site, il n'y a pas beaucoup de références. Et ma question, c'est si peut-être on ne pouvait pas anticiper les mêmes processus qui a passé avec les homosexuels il y a 40 années, qu'ils sont sortis du closet, mais c'est une chose de droit, enfin, c'est une chose tout à fait naturelle, et toutes les interventions que j'écoute ici sont des gens intelligents, développés intelligemment, intelligents émotionnels, intelligents intellectuellement, et si peut-être on ne peut pas anticiper les processus qu'ils ont vécu pour dire comment on peut aller plus vite, parce que ça devrait être un message qui doit être présent dans la société. Ça doit être un modèle qui, pour ma fille, doit être pas moi toute seule et qui l'écoute, et tous les autres parents et tous les autres enfants sont en train de dire mais tout le monde est marié, tout le monde doit être fait comme ça. Maintenant, je me pose la question pour ma fille, elle est 10 ans, et je dois transférer un nouvel modèle et je ne trouve pas de référentiel. Enfin, j'y arrive ici. Et en tout cas, pour moi, c'est un groupe tout petit. Ça devrait être une chose massive. Un choix comme les homosexuels ou l'hétérosexualité. Enfin...
Thomas, dans un an, on est 1000. Hein, et on revient ici. Hein.
Non, mais en fait, ça a déjà énormément évolué. Hein. Ça a énormément évolué. Moi, pendant des années, j'avais l'impression d'être le vilain petit canard partout où on m'invitait dans les émissions. Parce que j'étais la seule, on n'en trouvait qu'une. Et là, maintenant, de plus en plus, il y a de plus en plus de médias qui s'intéressent au polyamour. Et comme les médias, ils vont vers ce qu'ils se disent, ça va être la tendance de demain. Ça veut dire qu'ils ont compris que c'était un vrai mouvement. Et on commence à trouver de plus en plus de gens qui acceptent de témoigner, parce que il suffit pas d'être polyamoureux, mais il faut aussi accepter d'aller montrer sa tronche à la télé ou de parler à la radio, en sachant qu'on risque de se faire complètement massacrer. Moi, ça m'est arrivé 2-3 fois, donc c'est périlleux d'aller là-bas, parce qu'ils vont essayer de vous démolir de toute façon. Et il y a beaucoup de progrès, parce que je trouve qu'il y en a de plus en plus. Quand j'ai écrit mon livre Aimer plusieurs hommes, il était paru en 2002 la première fois. fois, j'ai été étonnée parce que j'ai reçu 250 lettres de personnes qui m'ont dit « Mais vous avez écrit ce dont je rêve ou ce que je vis déjà » parce qu'il y en avait déjà qui le vivaient. Et j'imaginais pas qu'il y en ait tant. Et depuis je sais pas combien de centaines de lettres je suis. Simplement, il y a beaucoup de gens qui le font en se cachant comme le faisaient les homosexuels autrefois. C'est-à-dire, ils vivent leur polyamour mais n'en parlent pas autour d'eux. Je connais un couple qui est polyamoureux, celui dont je parlais tout à l'heure avec la petite fille, mais ni les parents, ni les beaux-parents, et encore moins les gens au travail, ils sont enseignants tous les deux, ne sont au courant parce que pour l'instant, ils ont peur encore de le dire. Alors effectivement, tout le travail de groupe comme polyamour en Belgique, au Canada, en France, aux États-Unis, parce que c'est un mouvement qui est aussi assez important aux États-Unis, c'est de faire que de plus en plus, ça va le banaliser, ça va montrer qu'on n'est effectivement pas des marginaux, qu'on représente un mouvement, alors peut-être en ce moment un peu en avance, mais que c'est un mouvement qui en fait est dans une évolution naturelle des relations amoureuses.
Mais votre procès, pardon, mais votre procès, comme vous le présentez maintenant, c'est, ça va agrandir tout à fait organique d'une façon lente, c'est-à-dire les gens qui sortent des closets. Pour moi, c'est si on a déjà l'expérience des homosexuels qui se sont luttés pour une chose complètement naturelle, de la nature humaine, pourquoi maintenant anticiper les processus pour arriver à une exposition des modèles dans la conscience sociale. Enfin, ici, il y a la possibilité en Europe. Dans des autres pays, ils sont en train de lutter simplement pour avoir quoi manger. Mais ici, tous les gens peuvent étudier pourquoi on n'a pas accès à cette information. Comme je vous dis, j'ai passé presque 2 semaines à avoir une recherche en Internet pour arriver ici, parce que okay. J'ai trouvé que c'est isolé. C'est une...
Juste 2-3 petites choses par rapport à ça. Donc, j'ai l'impression que il faut peut-être une digestion humaine un peu, on va dire, il faut laisser le temps aux choses. Donc, j'ai l'impression, Jacques Attali dit que c'est en 2050 qu'on aura peut-être des modèles plus variés. Donc, lui donne une date, voilà, dans son livre Amour, qui est intéressant parce qu'il fait aussi des explications au niveau anthropologique. Donc ça quitte un peu l'ethnocentrisme que l'on a aussi en Occident, qu'on va y voir ailleurs. On peut parler des Celtes, on peut parler de l'Asie, on peut parler du Grand Nord. Il y a quand même un endroit, différents endroits où tout ça a déjà eu lieu, mais ça a été un peu tu, quoi. Ça a été un petit peu cloisonné. Donc une deuxième chose que je voulais dire, et là où je sens que ça bouge un peu aussi, pour rejoindre Françoise, Psychologie Magazine, il y a un an d'ici, avait fait un petit billet... plutôt en défaveur du mouvement polyamoureux, en se basant sur des rencontres à Paris, Polyamour Info, et c'était pas très élogieux. Je pense que tu avais réagi avec Guilain aussi sur le site. Et ce mois-ci, l'édition française donne la belle place à Guilain, justement, c'est le grand retour, et aussi à Isabelle. Et donc, il y a chaque fois le portrait photo, un commentaire. C'est des gens qui sont passés dans l'émission radio aussi. Et je me dis, tiens, c'est intéressant de voir qu'un grand magazine comme Psychologie Magazine a fait un petit peu volte-face en disant, tiens, ben, dans le fond, oui, il y a 3 expériences ici et ça a l'air de marcher. Et j'ai l'impression qu'ils se sont un peu ralliés à ce qui se passait autour et qu'ils n'avaient peut-être pas envie de rester seuls un petit peu dans leur coin. Voilà, ça, c'était une remarque. Et alors, une toute dernière chose. Il y a des textes intéressants sur le site, en effet. Il y a InfoKiosque, qui est vraiment un chouette site en France aussi, très alternatif. On trouve beaucoup de textes en PDF. Et il y a La tête contre le ventre. Voilà, c'est un texte qui est en fait sous forme de théâtre, de petites pièces de théâtre, et qui explique toute la difficulté d'être dans une acceptation intellectuelle d'un polyamour qu'on a envie de s'autoriser. Et puis les tripes, hein, le jour où on est tout seul à la maison, que sa compagne n'est pas là, c'est pas si simple. Voilà. Et donc c'est un beau petit texte, je trouve, qui incarne bien. Donc ça veut dire que pour moi, ça passe aussi par le corps. Et on peut aussi prendre des risques dans la vie. Et c'est vrai que ces jours-là sont peut-être difficiles, mais il y a des lendemains meilleurs, et moi je l'ai vécu aussi. Il y a des moments assez fabuleux où on se rend compte que c'est dans le corps que ça passe, et que c'est à mon avis le corps qui éduque l'esprit à ce moment-là. Et donc que nous, on nous a évidemment en Occident, avec Descartes et ses amis, on nous a quand même bien compartimenté les façons de réfléchir, mais j'ai l'impression aussi que le corps a beaucoup à nous apprendre. Ça, c'est un beau petit texte que je vous recommande aussi.
Et puis il y a des choses qui sont significatives, je crois, c'est que dans un feuilleton aussi populaire qu'en France que Plus belle la vie, là, le feuilleton qui se passe à Marseille, à un moment donné, on a vu, il y avait un épisode qui était pluriamoureux, où il y avait un jeune garçon qui aimait une fille, la fille en aimait un autre, et ils discutaient, mais tu crois que tu peux aimer 2 garçons? Ben oui, j'ai l'impression que oui. Ben oui, au fond, pourquoi pas? Et finalement, dans un truc de très grande audience. Et j'ai découvert aussi dans le best-seller Millennium, là, du Cédou à Larson, Et ben finalement, le héros, là, le journaliste Blomqvist, il est avec Erika, qui est mariée à un artiste qui s'appelle Lars. Et Lars, et elle dit, tiens, j'ai téléphoné à Lars que je dormais chez toi ce soir. Donc ils sont pluriamoureux. Donc si dans des choses très populaires comme ça, très lues, il commence à y avoir des héros pluriamoureux, alors ça va passer beaucoup plus facilement, parce que ça sera des héros populaires.
Moi, je voulais dire à ce monsieur que j'apprécie beaucoup son intervention. Et que être polyamoureux, c'est pas une lutte contre le mariage, c'est pas une lutte contre l'Église, et que je suis d'accord avec vous. Et ça remet, ce qu'il dit remet bien les choses à leur place. Il a passé 2 semaines à chercher sur Internet et il a trouvé pas grand chose. On n'est quand même pas grand chose. On n'est pas 2000 ici. Bon, il a trouvé ton site, hein, Phil, donc c'est merveilleux. C'est le principal. Mais on. Dans polyamoureux, il y a d'abord amoureux avant poly, et ça, je réinsiste là-dessus. Donc l'idéal de vie, enfin le modèle, il n'y a pas de modèle, il y a ce que vous voulez donner à votre fille, c'est ça le plus important. Et si votre fille vous voit heureux, que vous soyez polyamoureux ou monogame ou homosexuel ou tout ce que vous voulez, c'est ce que vous allez donner comme image du bonheur à votre fille. Et le modèle, on s'en fout royalement. C'est ça que vous devez donner à votre fille. Il suffit de venir, le premier mercredi du mois au Café Poli, et on n'est pas isolé, même si aujourd'hui la conversation est avec un niveau philosophique que moi je n'essaye pas d'atteindre au Café Poli. J'arrive là et je parle avec des gens qui partagent de loin ou de près les mêmes préoccupations que moi. Point. Mais moi aussi, j'ai des enfants. Moi aussi, je suis confronté à une vie polyamoureuse par rapport à mes enfants. Je sais pas quel âge a votre fille, mais vous n'avez pas dit ça. 10 ans. Bon, les miens sont beaucoup plus grands. Ils ont 20 et 16. Et ça ne les intéresse très peu de savoir que quand j'essaie d'en parler avec ma fille aînée qui a 20 ans. Bon, enfin, quand j'essaie pas d'en parler, mais que j'essaie de lui faire d'avancer sur le sujet. Elle s'en déroute, donc malgré que je sais par écho qu'elle est au courant, de ma vie pour certaines choses, ou du moins d'une partie de ma vie. Mais je crois qu'avant, je ne pense pas que c'est parce que c'est marginalisant. Je crois que ce qui lui pose le plus de problèmes, c'est que c'est son père, et que peut-être que l'image qu'elle veut garder de son père, ou moi je suis séparé, l'image qui lui est présentée par rapport à au modèle qu'essayerait de lui inculquer sa mère, c'est peut-être là qu'elle est différente. Quand ma fille met ses photos sur Facebook, ses photos de guindaille à la Gay Pride avec ses copines, je sais pas si elle fait ce qu'elle veut. C'est ouvert à tout le monde. Il faut pas être homo ou lesbien ou pour être à la Gay Pride. On pourrait y aller aussi, hein, tout compte fait. Moi j'y étais pas.
Pour les enfants, je voulais dire, parce que moi, elles sont grandes maintenant, elles ont 23 et 29 ans, mais ma fille aînée, justement, quand elle avait 13 ans, elle savait comment on vivait, mais on raconte pas le détail, parce que comme elle m'avait dit, maman, Freud a dit, les enfants n'ont pas à être au courant de la vie sexuelle de leurs parents, et je suis tout à fait d'accord avec elle. Elle disait même pas mes romans érotiques ni rien. Mais à 13 ans, elle a dû faire face, effectivement, aux réflexions de certains amis de collège, de tout ça. Elle y a fait face. Ça n'a pas forcément été facile pour elle, mais elle l'a bien vécu. Et, récemment, par contre, quand j'ai écrit le guide des amours pluriels, d'ailleurs, j'ai tapé amour pluriel aussi sur Google, parce que on peut dire polyamour, on dit pluriamour, et on dit amour pluriel, vous avez peut-être trouvé plus de choses. Et je lui ai dédicacé, alors que pour l'instant elle est totalement monogame avec l'ami qu'elle a actuellement, avec lequel elle se sent bien. Et elle m'a appelé, elle m'a dit, mais maman, ton guide des amours pluriels, il s'adresse pas forcément aux pluriamoureux, parce que moi j'aime bien dire aux pluriamoureux, il s'adresse à tous les gens qui aiment, parce qu'ils dédramatisent les conflits, ils dédramatisent la jalousie, ils analysent ce qui se passe dans la tête. Donc moi je le recommanderais à tous les gens qui à un moment donné aiment quelqu'un, c'est tout. Et donc maintenant on en parle très, très librement. Mais il y a des moments où ils n'ont pas forcément envie, donc on ne sait pas ce qu'on leur transmet. À un moment, je me suis dit, je me suis plantée, elle est complètement hostile à ça, et puis pas du tout, au contraire, aujourd'hui, elle en est même un peu fière, et elle est un peu fière quand elle a des copains qui disent, c'est ta mère qui a écrit ça, je l'ai vu, etc. Donc ça évolue selon les âges.
Enfin, moi, je ne le vis pas du tout comme ça. Ça me ferait même peur de vivre avec quelqu'un, enfin de faire une espèce de contrat comme ça, moral ou quoi, de couple et à côté d'avoir d'autres gens. Et donc ça m'étonne cette hiérarchie, on va dire, des relations. Enfin, c'est quelque chose qui m'étonne, ouais. Donc voilà, je vous en fais part. Et deuxièmement, par rapport à la question des enfants, je me demande légalement ce qui existe en fait quand on est 5, 6, 7, 8, qu'il y a l'idée de partager l'éducation d'un enfant qui forcément naîtra que de deux personnes là-dedans. Comment est-ce que ça se passe parce qu'au niveau entre les humains, il y a toujours des accords, des arrangements, mais au niveau légal, je me demande sincèrement.
J'ai deux enfants de deux pères différents, mais ils ont tous les deux le même nom. Parce qu'à l'époque, quand mon deuxième fils est né, je n'étais pas encore divorcée. Et donc, mon ex-mari m'a dit, il n'y a pas de problème, je donne mon nom à cet enfant. Donc, c'est de nouveau une question de s'organiser entre soi. Personnellement, en tant que polyamoureuse et anarchiste, je m'en fiche des lois. Je m'organise avec les pères qui sont là ou je m'organise avec les personnes. Alors, tu dis, moi, je ne veux plus vivre en couple. J'ai vécu 3 fois en couple. Je fais un choix de ne plus vivre en couple. Je crois qu'une fois de plus, le polyamour, on fait ce que tu aimes, tu fais ce que tu sens. Tu ne veux pas vivre en couple, tu ne le fais pas, tu vois. Il n'y a pas de loi. On se réfère toujours, j'entends beaucoup, pour beaucoup de gens, cette déstabilisation à dire, oui, mais ça correspond à quoi, ça? À soi, à son vécu. Moi, ma fille a maintenant 22 ans, mon fils a 17 ans. Tout au début, je n'osais pas trop, comme je vous disais, afficher ma façon de vivre. Puis petit à petit, j'ai osé, ça s'est fait petit à petit, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mes enfants étaient au courant, ils m'ont entendu parler, ils ont posé des questions. Mon fils a 14 ans, m'a dit, moi, il n'en est pas question, je serai fidèle. Il a 17 ans, il me dit, au fond, maman, je trouve que c'est pas mal. Ma fille a 22 ans, elle a eu un amoureux pendant 2-3 ans, c'était très difficile. Ils ont fait une rupture pendant un an et maintenant tous les deux ont fait le choix de la polyamour aux multiples relations. Et je vois ce couple que je connais depuis longtemps, ma fille et son amoureux, s'épanouir extraordinairement. L'amoureux de ma fille est complètement détendu, il se sent content, il n'a plus aucune pression sur ma propre fille. Et donc c'est vrai que pour dire qu'est-ce qu'on donne à nos enfants, moi je crois qu'il faut rester sincère à soi et dire mais tu es libre. Parce que quand mon fils a dit non, il n'en est pas question, je dis, tu as tes choix. Et le fait de lui laisser libre ses choix, d'ailleurs c'est dans tous les niveaux, je veux dire, c'est pas que niveau sexuellement, on éduque ses enfants pour faire leur choix de vie, c'est tout, que ce soit sexuel ou pas.
Je voudrais surtout revenir sur la magnifique littérature que François nous a présentée et la remettre peut-être dans une perspective historique qui n'est pas juste celle de l'individu. Il faut savoir, on a parlé de l'origine historique de l'institution fiscale du mariage, mais il faut savoir aussi dans l'histoire, on peut remonter même à l'Inquisition, il y a les époques de concentration de l'énergie, en quelque sorte, avec une répression sexuelle qui devient maximale, surtout à l'Inquisition, et puis il y a une libération, on arrive vers le XVIIIe siècle, au siècle libertaire, et puis on a de nouveau une concentration. Avec l'époque victorienne, les jésuites, les nonnettes, qui vous disaient que la masturbation rend fou. Imaginez nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents, pour les plus jeunes d'entre vous, la tournure, le joint entre le 19e et le 20e siècle, dans les pensionnats, tous les lits les uns à côté des autres, le surveillant qui passe, s'il y a un drap qui bouge au mauvais endroit, oulala, les dégâts. Alors, les anarchistes sortaient de cette époque jésuitique, nonnettique, de pensionnat où on voulait vous dire, vous imposer que la masturbation aura absolument fou.
Oui, pour revenir à l'histoire du modèle avec le couple, là c'est sans doute un hasard, mais en fait le pluriamour c'est simplement de dire on peut aimer de façon sincère et sans se cacher plusieurs personnes, il n'y a pas de hiérarchie et même moi qui suis mariée depuis très longtemps, on a réalisé avec mon mari que sur 38 ans de vie conjugale, on a vécu 3 ans en couple. Sinon, on a été dans un habitat autogéré, on a été en communauté, on a été avec 2 appartements séparés. Il y a eu un moment où il vivait dans le nord et moi à Paris. Un autre moment, il a vécu dans le sud et moi toujours à Paris. Enfin, donc finalement, statutairement on est un couple marié, mais en fait on a vécu avec plein de conformations qui n'étaient pas d'ailleurs choisies forcément, programmées. C'est parce que la vie, on suit ce que la vie fait, on s'adapte à ce que la vie nous apporte, et puis voilà, et puis ça s'est bien passé. Mais on n'avait pas, on a pensé quand même qu'on n'avait pas spécialement envie de vivre les yeux dans les yeux en ne nous regardant que nous deux, puisqu'on s'est quand même arrangé pour n'être que 3 ans en tête à tête.
Je voulais réagir par rapport au monsieur qui s'inquiète pour sa fille qui a 10 ans et qu'est-ce qui sera possible pour elle plus tard. Je crois qu'effectivement, y a ce qu'on apporte aux enfants et ce qu'on leur montre. Maintenant, c'est sûr que tout ce qu'ils voient ailleurs ne va pas nécessairement dans le même sens. Et je pense que le polyamour remet peut-être plus en cause la société telle qu'elle fonctionne et donc est peut-être plus difficile à faire passer que le combat pour des homosexuels, peut-être. En tout cas, c'est une impression que j'ai. Et d'un autre côté, enfin, moi, je vois les choses et j'ai l'impression que des personnes qui étaient, enfin, à qui j'aurais parlé de ça il y a 5 ans et où je suis persuadée qu'ils auraient arrêté de me parler parce que c'était tout à fait amoral, impossible, etc. Aujourd'hui, c'est... oui, c'est quand même un peu bizarre, mais non, ça va, ça passe quand même. Donc j'ai l'impression qu'il y a... Même si on n'est pas beaucoup ici ce soir et à mon avis pas beaucoup ailleurs non plus, j'ai l'impression que quand même, malgré tout, c'est en train de passer et que ça devient de moins en moins bizarre et que les choses pourraient évoluer peut-être plus vite que ce qu'on le pense et peut-être beaucoup moins vite aussi. Mais je pense que pour moi, comme c'est lié à d'autres choses, comme Françoise le disait, au partage des ressources qui vont être nécessaires, etc. Il y a des choix qu'on va être obligé de faire et qui vont peut-être en amener d'autres aussi.
Oui, moi je voulais juste répondre à mon voisin qui avait posé une question tout à l'heure. C'était la question de l'engagement, de la fidélité, du fait qu'on a des droits et des devoirs et est-ce qu'on dit juste au revoir ou pas. Et je peux juste apporter mon témoignage. C'est justement plutôt le contraire. Moi, je dis, pour ceux qui me connaissent, que j'aime 3 femmes, parce que j'aime les femmes, ceux qui connaissent le savent. Et donc, quand je dis 3, les gens me disent, mais où est la 3e? Parce qu'ils en connaissent 2, mais ils ne voient pas qui est la 3e. Et la 3e, c'est la première femme dont je suis tombée amoureuse. J'avais 22 ans et j'en ai 54. Et je l'aime toujours. Je n'ai jamais arrêté une seconde de l'aimer, mais elle ne répond pas à mon amour. Et là, on ne veut pas. Elle a fait plein de choses dans sa vie, elle a connu des hommes, des femmes, elle a été mariée, elle a divorcé, elle a fait tout ce qu'elle voulait. J'ai eu toutes les possibilités, mais elle a toujours refusé, elle ne m'a même pas jamais embrassée. Donc pour dire que vraiment, je n'ai rien sorti de physique, de sexuel, de cette relation, mais pour moi, c'est une relation, parce qu'elle est mon amie. Elle est mon amie, et l'amitié est une forme de l'amour. Les gens qui font une différence entre l'amour consommé, et l'amour non consommé et l'amitié, c'est une absurdité pour moi. C'est toujours le même sentiment. Que ce soit pour un enfant, que ce soit pour un ami, que ce soit pour Dieu, que ce soit pour un homme ou une femme, ça ne change rien. C'est toujours de l'amour. Même l'amitié, c'est de l'amour. C'est ça la différence. Je veux dire, moi, j'estime que nous avons une relation, même si ce n'est pas celle que je voudrais. Évidemment, moi, j'aurais voulu tout à fait autre chose. Et je me demande des fois si elle ne veut pas ça parce qu'elle sait très bien que moi, j'ai toujours été avec 2 ou 3 femmes ou personnes ou hommes, etc. en même temps. Et elle, ça lui fait peur. Elle n'accepte pas ça. Ça lui dit, bon Dieu, j'aurai la 3e place. J'ai beau lui dire, non, tu aurais la 1re, il y aurait quand même les 2 autres. Et donc, ça pose problème. Mais pas moi. Moi, je continue d'aimer et je m'en fous. Parce qu'on aime quelqu'un parce que cette personne est aimable. Elle continue de mériter mon amour. Elle n'a jamais fait de conneries, elle n'a jamais été mesquine, jalouse, idiote, ou voilà. Continue d'être quelqu'un d'admirable. Donc, moi, je l'aime toujours. Je veux dire, c'est aussi bête que ça, la chose. Mais pour dire que, voilà, c'est vraiment le contraire. C'est pas au revoir, parce qu'elle m'en a fait voir de toutes les couleurs. Je veux dire, j'aurais pu 1000 fois dire, bon, ok, elle pense pas à moi, elle s'en fout, elle est partie au bout du monde. Je veux dire, elle a fait vraiment tout ce qui était possible de faire. Y compris aller en prison. Je veux dire, c'est vraiment plus que ça, ils ne pouvaient pas faire. Hein. Donc, c'est ça que je veux dire. C'est pas la relation, c'est pas forcément consommer. C'est pas forcément. Moi, quand je dis. Moi, je continue de dire que j'en aime 3 parce que j'en aime 3. Hein. C'est moi qui aime. Maintenant, c'est ça. C'est ça pour moi.
Alors, si vous êtes réunis, Et pour moi, c'est intéressant d'écouter les vécus de chacun et les petites expériences, c'est joli. Mais comment on peut anticiper que les choses... Parce qu'avec les homosexuels, ça a pris 40 années de passer de un par un, de compter, oui, j'ai le droit de sortir des closettes. Mais ici, ce n'est pas de sortir des closettes, c'est simplement un droit humain fondamental à la liberté, à les choix, à sortir de la prison de conscience qui s'était imposée culturellement, éducativement, etc. Alors, comment... Je ne m'attends pas à écouter la réponse maintenant, mais je vous laisse la réflexion parce que j'ai écouté des gens assez profondes pour peut-être trouver une façon de réagir plus forte que simplement la transmission.
Je voulais répondre à ta question parce que j'ai des enfants qui sont petits. Moi, j'aime bien la comparaison entre l'amitié et l'amour parce qu'il y a autant de différentes formes d'amour que d'amitié. Et en fait, moi, je vois ça comme mes enfants, par exemple. Je leur présente ça comme des amis. Et ils comprennent tout à fait. Ils savent que j'ai des amis, mais ils cherchent pas à savoir plus. Quoi. Pour moi, c'est on a des amis plus ou moins intimes. C'est pas ça qui est important. On est une communauté de gens avec qui on vit. Et je crois que mes enfants le comprennent, même si je leur explique pas exactement. Ce que j'ai plein d'amis filles, garçons. Des fois, ça va plus loin, des fois, non. Bon, ça, je garde pour moi. Mais c'est une communauté de gens que j'aime. Et peu importe si c'est amour, amitié, parce qu'il y a autant de formes différentes dans ces deux domaines. J'aime beaucoup la comparaison amitié et amour.
Oui, pour revenir à ta réflexion et que tu as reprise plusieurs fois, donc je sens que c'est important de savoir comment on peut anticiper pour aller plus loin dans ce mouvement. D'abord, faut pas aller trop vite parce que comme tu l'as dit, il a fallu 40 ans pour les homosexuels. Il faut du temps pour que effectivement de nouvelles idées s'imposent vraiment. Parce que si tu les forces, comme ont essayé de faire les anarchistes à un moment donné, ça ne passe pas parce que ça viendra du haut, d'un petit groupe, d'un petit noyau, et les autres ne seront pas prêts. Mais par contre, comme je le disais tout à l'heure, j'ai remarqué que les gens qui sont dans le polyamour sont très souvent aussi des gens qui vivent un petit peu différemment déjà de la norme sociale. Il y a pas mal de végétariens aussi, ça, j'ai remarqué ça, ou de gens qui mangent bio. Il y a des gens qui ne veulent plus de la télévision. J'en ai rencontré à différentes manifs. Pratiquement à chaque manif, je rencontre des gens du groupe polyamoureux. Donc, on se dit, ils participent à la vie sociale, ils participent à la vie politique et en général dans des mouvements plutôt marginaux, et à la Gay Pride notamment, enfin différentes choses comme ça. Donc je crois qu'ils vont essaimer parce qu'ils ont aussi d'autres centres d'intérêt. Si on restait uniquement sur notre plaisir de dire chouette, on est polyamoureux, on a plusieurs amours, on est heureux, tout va très bien, mais on serait heureux, ce qui est déjà pas mal, ce qui serait déjà une grande chose, mais on s'aperçoit aussi que... Je ne sais pas comment, mais ça nous induit une autre façon de vivre par rapport à la consommation, Je crois que c'est surtout parce que les façons de vivre qu'on choisit sont en accord avec nos valeurs, qui sont des valeurs de non-violence, qui sont des valeurs de partage, qui sont des valeurs qui ne sont pas celles du monde dominant. Donc petit à petit, ça va essaimer. Mais ça ne peut pas aller vite parce que c'est tellement en contradiction avec les valeurs dominantes que... En face, il y a un rapport de force. Il ne faut pas croire qu'un système se laisse démolir comme ça. Et si on y va trop de front avec le système actuel, c'est lui qui gagnera. Il a beaucoup plus de force que nous. Par contre, je suis persuadée que l'entrisme, en sinuant, en étant ce qu'on appelle des créatifs culturels, c'est-à-dire sans trop le dire, en étant extrêmement discret, mais en vivant différemment, alors là, on induit un véritable changement. Mais il faut du temps quand même.
Il y a quelque chose quand même qui devient dérangeant, c'est qu'on parle beaucoup de mouvements et... On est là, on est venu tous aujourd'hui pour parler, et je pense pas qu'on va descendre avec des calicots demain, après-demain ou le week-end prochain. Il y a une envie de vivre. Je suis d'accord qu'il faut la vivre par rapport à la liberté, mais de toute façon, les clichés du polyamoureux, on les aura encore. Moi, si je dis que je suis amoureux de 5 femmes, on me dit ah, mais c'est pas du vrai amour, hein, Simon, hein, c'est pas possible. Hein. Quand on est amoureux que d'une femme, c'est que t'es pas encore tombé sur la bonne. Enfin bon, passons. Non, il y a des choses que l'on vit et puis on les vit librement. Et les gens qui ont envie d'être mariés, ben ils n'ont qu'à envie d'être mariés, ceux qui ont envie d'aller à l'église tous les samedis soirs, et même tous les samedis soirs et tous les dimanches matins, et ben c'est leur problème. Voilà.
Et le mouvement,
je ne parle pas d'un mouvement organisé, mais je dis que le mouvement se fait forcément, parce que si aujourd'hui, par exemple, vous vivez heureux votre polyamour, c'est peut-être parce que depuis 20 ans, je défends ça et que partout, j'ai dit que c'était ne pas être tellement anormal de le faire. Hein. Parce que moi, les premières fois où j'en ai parlé, je me suis fait traiter absolument de tous les noms, honnir et même menacer. Donc ces choses-là, ça fait 20 ans que je travaille dessus pour que ça avance. Alors si aujourd'hui il y a ces mouvements et que ça se passe mieux, c'est peut-être parce qu'il y a des gens qui l'ont fait. Exactement comme pour les homosexuels, où il y en a quelques-uns qui se sont exposés au départ pour qu'aujourd'hui les homosexuels puissent vivre heureux leur sexualité. Et par ailleurs, vous êtes mariée et vous avez plusieurs amoureuses. Mais il y a des personnes, vous n'êtes pas mariée, mais vous avez plusieurs amoureuses. Mais vous avez des personnes qui posaient la question très juste de, par exemple, si on a plusieurs amoureux avec qui on va faire des enfants, quels seront les droits de ces enfants? Ça, ce sont des vraies questions. Moi, je ne les ai pas puisque j'ai fait mes enfants avec mon mari, mais il y en a d'autres qui les ont. Et donc, ceux-là, forcément, ils vont essayer d'y réfléchir et d'obtenir quelque chose pour que leurs enfants ne soient pas considérés comme des enfants à part, des bâtards ou n'importe quoi. Donc, selon les circonstances, il y aura plus ou moins de mouvements. Ça veut pas dire du tout qu'on est obligé de faire un mouvement, mais il y a des gens qui auront besoin de le faire.
Je voudrais simplement dire, comme avec Françoise, que je connais bien, je respecte à 1000% ses idées en général. Mais moi, je suis l'inverse pour plein de choses. Je vote à droite, je mange de la viande, je suis marié, j'ai deux enfants, j'ai un boulot hyper consommation.
Mais t'es gentil quand même.
Ce week-end, j'ai essayé des Porsche et des Ferrari sur un circuit. Donc, je me dis, non, mais voilà, donc, je dois être honni ici parmi, je veux dire, on peut me brûler maintenant sur place. Et j'ai ma TV, et j'ai une TV, et j'adore la télé, mais en enregistrant ce qui m'intéresse, parce que
je vais te dire, j'en ai une télé aussi.
J'en ai plusieurs, et j'ai plusieurs décodeurs. Enfin, je suis vraiment le gars qui était faible à la société.
Nous fait un coming out d'enfer là.
Voilà, on peut, enfin bref, on peut m'euthanasier tout de suite, c'est bon. Mais
libère-toi.
Mais oui. Mais c'est oui, c'est ça. C'est...
Non, t'en fais pas, Vincent, on t'aime.
La cigarette tue. Et c'est... Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça m'empêche pas d'être polyamoureux. Ça
m'empêche pas d'échanger tous les deux, voilà, alors qu'on n'a pas les mêmes opinions sur tout.
On n'a pas les mêmes opinions, et je m'en sens très bien, et j'ai énormément de respect pour tout ce que j'ai entendu ici. Voilà. Mais l'important, c'est quoi? C'est, comme tu disais tout à l'heure, de vivre heureux et d'essayer. Alors moi, je vis avec en plus une femme qui accepte ma position polyamoureuse et qui, elle, reste monogame. Donc c'est même possible de vivre comme ça. Elle a essayé, ça n'a pas marché. J'ai quatre femmes, je dis toujours, j'ai quatre femmes de ma vie. J'ai la mère de mes enfants et j'en ai trois autres. Et j'espère que le jour où je serai mort, elles seront autour du cercueil et qu'elles se serreront les unes contre les autres. Et j'aurai réussi ma vie, voilà. Donc voilà, merci.
Ce que j'entends chez vous, je crois, c'est la peur que votre fille, si elle fait un choix pareil, pourrait souffrir. Comme il y a 40 ans, les homosexuels devaient se cacher parce que sinon ils souffraient. On les humiliait, on les empêchait d'avoir des jobs. Voilà, c'est ça que je comprends. Je ne pense pas qu'être en relation polyamoureuse soit aussi risqué que d'être homosexuel il y a 40 ans. Je suis une femme, et comme je l'ai expliqué, mais j'ai tout un parcours, j'ai beaucoup d'assurance en moi, c'est pas grave. J'ai beaucoup d'assurance en moi, j'ai travaillé tout ça. Ma fille, en effet, qui, comme je l'ai témoigné, commence tout doucement à vivre ça, a des problèmes malgré tout, c'est exact, au sein de ses autres amis. Mais comme je suis derrière elle, que je la soutiens et qu'il y a d'autres choses, des problèmes, peu importe qu'ils soient sexuels, relations, travail, c'est inévitable. Je crois qu'il faut simplement avoir confiance qu'on aura une vie de bisounours, qui est le mot à la mode sur Internet, ça n'existe pas. Donc on aura toujours des difficultés, quelles qu'elles viennent. Il faut simplement développer la confiance. Mais je comprends très très bien votre inquiétude. C'est qu'en tant que parent, on n'a pas envie que nos enfants souffrent. On a envie qu'ils soient acceptés 100% comme ils vont être et choisir d'être. Mais ça, c'est des parcours très personnels. Mais oui, petit à petit, à force d'oser dire, parce que je ne sais pas si monsieur là-bas, mais peut-être que oui, j'aime bien votre témoignage, mais est-ce que vous osez avouer, oui,
au sein de votre travail que vous êtes polyamoureux, par exemple. Est-ce que vous courez des risques à le dire ou pas le dire? Il y en a beaucoup qui ne vont jamais dire « moi j'ai une vie polyamoureuse » parce qu'ils risquent de perdre leur travail par des préjugés. Donc je comprends le combat aussi, c'est de pouvoir... Mais est-ce que c'est absolument nécessaire de dire « je suis polyamoureux » Est-ce que c'est hyper important de dire dans sa vie à tout le monde qu'elle met sur le toit « je suis polyamoureux » Pour certains, oui, pour certains d'autres, non.
Moi, quand je marche dans la rue, que ce soit avec ma femme ou avec une dame que j'aime, je suis moi, quoi. Donc, je suis pas polyamoureux. Bonjour, je suis polyamoureux. Et ben, moi, je suis Phil. Et moi, je suis Sébastien. Ben non, moi, je suis moi. Et avant toute chose, quoi. Donc, ça passe pas par une revendication obligatoire ou de monter au créneau, quoi. Simplement. Et je voulais terminer par une phrase, enfin, deux petites phrases poétiques de Julius Bocarne qui dit que les hommes et les femmes sont des chefs-d'œuvre en péril. Et il dit, en terminant le texte, tout est toujours à recommencer. J'aime beaucoup ça. Dans cette simplicité de l'être qui se redéfinit en permanence et qui a le courage de se redéfinir en permanence par rapport à soi et par rapport aux autres qui sont un effet miroir, simplement. Mais polyamour s'inscrit dans ça, je trouve.
Par rapport
pas tous un miroir qui pense ne réfléchit plus.
Par rapport au progrès social, monsieur essaye de faire augmenter la vitesse de ce progrès social. C'est très difficile, hein. Malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous mourrons. Donc chaque fois, c'est à recommencer. Votre fille devra recommencer. Elle devra se battre contre elle-même, contre les autres. Il faut la connaissance. On vit dans un monde, mais bon, les cathos, l'islam, etc., qui prône l'obscurantisme. Ça permet de dominer les foules. Alors, on parle de relations, hein. Pour une relation multiple, comme on l'a dit, pour avoir des relations multiples, il faut d'abord en avoir une. Savoir comment cette relation fonctionne. Essayer d'apprendre ce que sont réellement les relations. Et puis après, vous allez découvrir pourquoi une relation a une certaine durée. Et pourquoi, éventuellement, on peut en avoir d'autres. Mais ça passe par la connaissance.
Donc, moi, pour revenir sur la question de la possibilité d'accélérer le mouvement qui prenne une certaine ampleur, j'ai le sentiment que ça restera un mouvement malgré tout minoritaire, en ce sens que le polyamour est quelque chose de relativement difficile et d'ardu. Et donc, ça demande, enfin, en tout cas pour moi, ma perception, c'est qu'il faut une connaissance de soi-même, une acceptation de soi-même, un amour de soi-même important qui est le résultat d'une évolution, d'une recherche, d'un travail et vraiment de façon tout à fait modeste, j'ai l'impression d'en être qu'au début et donc je pense que beaucoup de gens soit ne souhaiteront pas faire ce travail ou n'en verront pas l'intérêt. Et parce que c'est un travail qui dépasse le polyamour, c'est un travail plus large de connaissance de soi-même, et donc forcément, ça restera en partie minoritaire. Ce sera pas un phénomène de masse. Ce sera pas un phénomène de mode parce que c'est exigeant. C'est pas facile. Et donc, même si j'ai quand même le secret espoir qui est une sorte de conscience collective, conscience humaine qui progresse et que l'humanité va peut-être, on peut espérer, vers un mieux, vers une conscience supérieure, mais ça se fera pas en 5 ans, ça se fera pas en 10 ans. Et donc, il y a un travail personnel et collectif important qui fait que si on peut espérer que ce soit pas un modèle ostracisé et en tout cas pourchassé, mais que ça restera, je crois, un modèle malgré tout minoritaire parce que difficile.
Oui, là, je suis assez d'accord. D'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes qui m'ont dit, mais enfin, ton polyamour, c'est tellement plus simple de faire un adultère et de bien se cacher. Hein. Donc, si c'est uniquement le fait d'avoir plusieurs relations amoureuses, c'est vrai qu'on peut très bien s'arranger avec de l'adultère caché ou de l'adultère consenti, qui est quand même différent du polyamour. Je suis d'accord avec vous. C'était une recherche sur soi beaucoup plus large. Mais je crois que l'idée, c'était pas de penser tout le monde doit devenir polyamoureux ou il en faut le plus possible. La question, c'était juste, si on a envie d'être polyamoureux, ben, qu'on nous foute la paix. En fait, je crois que c'est ça la vraie revendication. Les gens qui sont monogames, qui sont bien comme ça, mais qui le restent. Ceux qui sont dans l'adultère heureux, qui le restent. Simplement qu'on n'impose pas un seul modèle et qu'on ne fasse pas chier, oui, disons-le, qu'on ne fasse pas chier ceux qui sont dans un autre modèle.
Moi, j'avais envie de réagir à Simon, parce que j'ai un peu compris ce que tu voulais dire, je pense, par rapport aux revendications, aller dans la rue avec des calicots. Et j'ai l'impression que le mouvement polyamour pourrait proposer, mais on n'est pas obligé de l'appeler mouvement, simplement d'être dans une certaine ludicité aux choses, se faire plaisir, se faire du bien. Et c'est vrai qu'à la Maison Arc-en-Ciel, pour laquelle j'ai beaucoup de respect, une des premières questions qu'ils m'ont posées, parce que c'était un petit peu interrogatoire, comme ça j'avais tout le CA devant moi, et j'avais ma petite feuille comme ça, un peu tremblée, j'avais fait les grandes affiches en A4 couleurs et tout, pour essayer de... j'avais même fait un mind map, là, les cartes mentales, enfin bon, j'avais mis le gros paquet quoi, pour convaincre. Mais donc j'ai senti, est-ce que vous avez un agenda politique ? Donc c'est la première question, je n'attendais pas du tout à ça, j'ai regardé ma petite note, il n'y a rien, bon. Et là je me suis dit, ça confirmait un petit peu, et je vous invite à l'écouter, c'est mon ami Christian qui est artiste aussi, il chante, il fait de la musique, des émissions radio, et il a pris la parole le premier dans les émissions radio, et il dit dans le fond, et je le cite un peu, que donc la société a toujours un regard clinique aussi sur les choses. Où est le problème, où est-ce qu'on va mettre le sparadrap ? Et donc j'ai un petit peu senti ça à la Maison Arc-en-Ciel, mais en même temps je peux le comprendre parce qu'ils ont été vraiment porteurs d'un combat très important, et donc nous arrivons dans quelque chose de confortable avec déjà des subsides, avec le bar qui est super, on s'amuse, hein. Et donc peut-être qu'on a c'est un peu ce luxe pour le moment d'être arrivé là, mais c'est vrai que faut-il aller tout de suite dans la rue, qu'est-ce qu'on a demandé, mais peut-être que dans le fond c'est simplement oser être bien entre nous, c'est déjà pas mal en fait. Mais moi je n'ai pas senti d'ailleurs dans les rencontres qu'on avait depuis 2-3 ans qu'il y avait une vraie envie de militer, et en même temps je ne suis pas non plus dans la position d'avoir des enfants à naître et où il faut réfléchir, donc j'ai vraiment du respect, et peut-être qu'il y en a parmi nous qui auront envie d'aller, comme au Canada apparemment, là ils réfléchissent pas mal, si vous allez sur le groupe Yahoo de polyamour au Canada, ils réfléchissent pas mal au niveau législatif, et en plus ils ont d'autres lois plus ouvertes apparemment, donc ça viendra peut-être de chez eux aussi. Mais donc je rejoins ce que tu dis, j'ai l'impression que c'était peut-être cette invitation à être dans le ludique, et j'ai l'impression que c'est important de quitter l'idée de l'expert. Quand on regarde le JT, ah voilà, on a un problème d'écologie, on va appeler l'expert de l'ULB, l'UCL, il va nous dire quoi. Alors qu'il y a 200 ans, les scientifiques avaient, je crois, un regard beaucoup plus large, et ils pouvaient, comme monsieur Léonard de Vinci ou d'autres, embrasser très largement une science et pouvoir parler de médecine ou de mathématiques. Et aujourd'hui, on a affaire à des experts qui dissèquent avec des scalpels chaque problème avec les tableaux Excel, hein. Puisque moi, je connais aussi des ONG à Bruxelles qui ont décidé de ne plus être ONG parce que, en fait, ça leur demandait un salaire et demi en temps plein pour remplir les formulaires qui étaient issus de l'armée américaine. Donc, au niveau des ONG, quand on lance des sacs de riz sur l'Afrique, c'est facile de compter les sacs de riz. Mais quand on fait de l'humanitaire culturel, comment on peut compter si quelqu'un, tout doucement, en termes de citoyenneté, est dans une évolution ou une prise sur sa vie, peut-être un peu plus créative. Et donc voilà, c'est peut-être le message aussi. J'ai l'impression que c'est dans cette largesse d'action qu'il faut peut-être se faire simplement du bien et peut-être donner aux autres l'envie peut-être de nous questionner. Et je pense qu'il y a une évolution au niveau des médias. Et donc je remercie Nurten, qui est quelqu'un de fabuleux, qui est venu faire un reportage à la Maison Arc-en-Ciel la semaine dernière. Et aujourd'hui, le soir.be a diffusé à la une, sauf la photo qui n'est pas terrible, mais ils ont diffusé un chouette texte très respectueux. Voilà, donc c'est quelqu'un que je connaissais un petit peu, donc j'ai fait confiance, et elle a été dans une belle intelligence de reportage, donc ça existe encore, enfin voilà.
Et dans un progrès qu'il y a eu l'an dernier, une étudiante thésarde est venue nous voir parce qu'elle voulait faire une thèse sur les conséquences législatives, fiscales, enfin toutes les lois que pouvait entraîner le polyamour. Et donc j'avais trouvé que c'était intéressant que pour une fois on le voit sous cet angle. Elle avait trouvé un directeur de thèse, donc on avait décidé de travailler ensemble. Et puis c'est la faculté qui a refusé le sujet. Donc elle a dû y renoncer.
Je pense que pourquoi beaucoup de personnes aussi refusent, sont un petit peu réticentes, parce que je trouve que ce soir on n'a pas beaucoup parlé de sexe. C'est vrai, parce que en fait, je pense que justement le sexe, moi je l'ai découvert récemment, qu'on rentre beaucoup plus facilement, beaucoup plus vite avec une personne, comme le disait Jean, à chaque fois qu'on fait l'amour avec une personne, il y a des choses qui se développent, donc on rentre plus intimement avec une personne, plus vraie, c'est une relation beaucoup plus vraie, et je pense que c'est peut-être pour ça le succès, nous... on est peut-être un petit peu avant-garde, on a envie de rencontrer des gens plus rapidement, voilà, pour des relations plus vraies, quoi. Je pense que c'est ça aussi que les gens, tout de suite on dit c'est du sexe, mais pourquoi sexe juste pour s'amuser, mais je pense que c'est du sexe pour connaître les personnes vraiment.
Et à côté aussi, c'est que c'est extrêmement reposant de pouvoir sauter au cou d'un mec et pas de se dire est-ce que sa nana est là et que ça pose aucun problème si sa nana est là. Je trouve ça très très reposant.
À propos de se changer soi-même pour changer le monde, je voudrais revenir. Tout au début, vous disiez que le polyamour connaît les mêmes difficultés d'acceptabilité sociale que le divorce il y a longtemps. Et effectivement, j'étais un enfant de parents divorcés avec ma petite sœur, là-bas en Afrique centrale, où on était 20 ans en retard culturellement sur la diffusion qui venait d'Europe. Les tout premiers de tout le Kivu, du Rwanda, Burundi, c'était dur à vivre, ostracisé complètement. Et j'imagine aujourd'hui, je vois comme polyamoureux, essayer d'en parler autour de soi, c'est très très difficile. Alors venant aux enfants, vous parliez de cette petite fille qui s'inquiète à 6 ans, hein, papa, un amoureux aussi comme toi, hein, alors tout va bien. Effectivement, il faut savoir qu'une fois la fécondation, hein, ce petit spermatozoïde et l'ovaire qui fusionnent, pour le reste de la vie, et même plus tard, au-delà de la mort dans la généalogie, on a un père et une mère, point final. Et on ne sait jamais, jamais, jamais changer. Tandis qu'une fois qu'on devient adulte, on ne sait peut-être pas changer de parents, mais on sait changer de partenaire. Et génétiquement, c'est même une question de santé de le faire. Comme en économie, il ne faut pas investir toutes ces économies dans le même panier, en génétique, il ne faut pas investir tous ces gènes dans le même partenaire. Donc c'est un truc biologique. Alors, en revenir aux questions de divorce, à la même époque, la révolution sexuelle des années 60, la révolution sexuelle n'a pas été tout à fait un flop. En 1970, l'écologie venait aussi, c'était la première année de la nature. Et en 1974, nous parlions de la masturbation qui rend fou, en 1974, l'Organisation mondiale de la santé a défini la santé sexuelle au niveau individuel et au niveau institutionnel. Si ça vous intéresse, allez lire sur Wikipédia, santé sexuelle. C'est mieux décrit en français qu'en anglais, d'ailleurs. Et donc, tout ça revient. Oui, on en est ri. Les enfants ne savent pas changer de parents. Donc, il faut gérer. Ne les déstabilisez pas, ça ne sert à rien. Moi, je ne déstabilise pas mes enfants. Comme Mitterrand, je ne me sépare pas de ceux que j'aime. Mais ça ne m'empêche pas d'en aimer d'autres. Et donc, je reste marié, pour ceux qui se posaient la question.
Ça se discute. Moi, je ne suis pas tellement pour un statut, mais je conçois très bien pour des plus jeunes qui se posent la question, comme j'avais dit, à laquelle personne n'a répondu, quand ils ont plusieurs amoureux et éventuellement des enfants de chacun, comment tout ceci, les droits des enfants vont être préservés. Peut-être qu'il y aura besoin de quelque chose, mais moi, au point où j'en suis arrivée, j'en ai plus besoin, mais ce n'est pas parce que j'en ai plus besoin que je dois dire que c'est inutile.
Alors moi, j'avais une question que je me pose depuis quelques temps. Je ne sais pas si quelqu'un pourra y apporter une réponse. Je connais un couple... Donc, dont une personne qui est exclusive et l'autre qui n'est pas exclusive. Bon, ça ne se passe pas toujours forcément bien. Mais en fait, la question, c'est que donc, celle qui est non exclusive dit « Bon, bah voilà, je tolère, entre guillemets, que tu fasses des choses avec d'autres personnes, sexuellement parlant, mais tant que ça ne dépasse pas un certain stade. Par exemple, s'il y a pénétration, là, je ne suis pas d'accord. » Alors, je voulais savoir, justement, dans quelle mesure on peut définir qu'est-ce qui, dans un acte sexuel, peut aller trop loin par rapport à une exclusivité, une non-exclusivité?
Oui, déjà, penser à quelqu'un d'autre, c'est déjà tromper celle avec qui on est. D'accord? Bon, alors, pour en revenir et compléter ce que Luc disait, il ne faut pas oublier, par exemple, au niveau des divorcés, et là, je reviens aussi à la question qu'on posait au niveau de l'évolution sociale. À l'heure actuelle, dans certaines écoles, les enfants de parents encore mariés et mariés et père et mère des enfants, ça devient la minorité. La norme, c'est la famille recomposée ou la famille divorcée. Il ne faut pas oublier ça. Actuellement, les statistiques, quand on voit des statistiques, ce sont des anciennes statistiques. Alors, j'aime beaucoup le psychologue Yvon Dallaire, qui est un psychologue canadien et qui fait pas mal de bouquins sur comment être heureux. Alors, quand on regarde en première lecture son livre, c'est un peu comme s'il fallait nécessairement vivre une relation unique, exclusive et éternelle. Or, dans son bouquin, si on regarde bien, il parle des statistiques. Et, de nouveau, on en revient à l'heure actuelle, on est parfois, dans certains, par exemple à Bruxelles, à 3 divorces sur 4 mariages. D'accord ? Première statistique. Mais on ne parle jamais des gens qui ne sont pas mariés et qui vivent aussi des relations et qui se quittent. Donc ça, ça n'entre pas dans les statistiques. Autre statistique qu'il faudrait faire, les gens qui restent ensemble. Combien restent ensemble pour de mauvaises raisons ? Et combien vivent des enfers dans cette relation ? Alors, ça évolue, hein ? Mais de nouveau, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un combat personnel.
En fait, je ne suis pas sûr que ce soit un combat juste personnel, parce que moi, j'ai trouvé c'est un peu bizarre, votre intervention tout à l'heure, de dire que vous ne vouliez pas faire de mouvement. Moi, je pense justement qu'il y a des choses à protéger et il y a des droits à acquérir, en particulier pour les enfants. Puisque je trouve personnellement que le fait effectivement que les parents divorcent autant est une mise en danger des enfants. Moi, je trouve que la monogamie détruit des familles. Elle a détruit la mienne. Enfin, détruit. Elle n'est pas détruite. Mais les parents se sont séparés à cause de ça. Et je pense que c'est effectivement des droits pour lesquels on doit peut-être se battre. Je ne dis pas que c'est moi qui vais me battre. Je sais que la vie associative est très compliquée. Et je voulais dire à monsieur que moi, j'ai fait des réunions de parents d'élèves où je sais très bien qu'il y a au moins 400 parents dans l'école et on était 10. Pourtant, il y a bien des parents, ça j'en suis sûr. Donc, des polyamoureux, il y en a certainement beaucoup, si je compare à la population aujourd'hui.
Pour répondre à la question, puisque je vis depuis pratiquement 10 ans un statut polyamoureux avec une épouse qui a testé ça pendant un an et puis à qui ça ne convenait pas, on a mis pratiquement une année, puisqu'on s'est séparés, ça fait 20 ans que nous sommes ensemble, on s'est séparés pendant un an et on a c'est pratiquement de la discussion pendant un an. Alors j'ai ma meilleure amie qui m'a toujours dit, tu lui as fait choisir entre la peste et le choléra. C'est-à-dire, soit on se quitte et c'est terminé, soit tu acceptes la fonction. Alors c'est, bon, quelque part, elle n'a pas tort. Je sentais que pour être heureux, je voulais vivre comme ça. Mais je ne voulais pas la mettre en danger non plus. Alors c'était quoi ? C'était moi ne pas être heureux ou elle être malheureuse. Donc c'est toutes des choses, c'est presque une balance de pharmacien où on a mis les petits poids pour sous-peser le pour et le contre. On avait déjà un enfant qui avait 3 ans à l'époque, qui avait été marqué par un quasi-divorce. Et on a, après l'année de discussion, on s'est remis ensemble. J'ai écrit à Françoise qui m'a gentiment répondu. Et puis on en a rediscuté, elle a rencontré mon épouse. Avec qui elle a discuté, mon épouse a dit oui, mais c'est trop dur pour moi. Et puis on a continué. Et 3 ans après, on a entre guillemets refait une petite fille. Et voilà. Et aujourd'hui, on a trouvé notre équilibre. Et si demain mon épouse trouve quelqu'un, elle sait qu'elle a 200% de liberté de faire, parce qu'elle l'a déjà vécu, donc elle sait ce que c'est. Et la seule chose, c'est que on a convenu de ne pas parler des détails, parce que pendant un tout petit temps où elle a eu quelqu'un, entre guillemets, on ne se racontait pas les détails sexuels, mais on avait un... on dit, ah oui, mais j'ai rencontré telle personne après-midi, voilà, bon, mais ça, on ne fait pas. Par contre, je lui dis, voilà, vendredi soir, je ne suis pas là, elle ne me pose pas la question de savoir où je suis ou quoi que ce soit. Idem, si je peux laisser mon GSM, mon ordinateur, elle ne va jamais aller fouiller, et moi, je n'irai pas fouiller dans ses affaires. Parce que c'est, on a chacun nos. Et aujourd'hui, je sais, et parce que j'ai demandé à nos meilleurs amis, à des gens, parce qu'évidemment, les parents, notamment, ne connaissent pas cette situation, mais des amis très proches qui nous connaissent tous les deux, et demander de façon très discrète à gauche et à droite, est-ce que tu penses que mon épouse est vraiment heureuse de cette situation ? Et il y a personne qui a ne serait-ce que soulevé le doute là-dessus. Donc, ça me réconforte. Mais au départ, c'est vrai que je lui ai fait choisir entre la peste et le choléra. Voilà.
Vos 3 autres amoureuses, est-ce qu'elles vivent des polyamours ?
C'est très différent. J'ai ma première, ce que j'appelle la femme de ma vie, celle que j'ai rencontrée, j'avais 18 ans, elle en avait 16. On a vécu 4 ans ensemble. Elle habite dans le sud de la France. Elle est monogame. pendant ici, par mon activité professionnelle, je descends régulièrement là-bas, je la vois comme une amie, comme ma meilleure amie, comme ma sœur. Il y a 3 ans de ça, elle m'a appelé, elle s'était séparée depuis une histoire de 11 ans. Elle m'a dit, écoute, je sais comment toi tu vis, ça fait 6 mois que je n'ai pas eu de câlin. Et je ne peux pas trouver un mec comme ça dans la rue en lui disant j'ai envie de câlin. Elle dit, est-ce que tu veux bien, est-ce que ta femme serait d'accord qu'on ait... Et pendant un an, je suis descendu régulièrement la voir et on a passé des week-ends. J'ai passé un moment formidable. Mais on avait convenu que le jour où elle retrouvait quelqu'un, ça s'arrêtait. Et ce jour-là est survenu. Moi, j'en ai même souffert parce que je savais qu'elle était exclusive. Et donc, ce contact amoureux, je ne l'avais plus. Mais je continue à avoir. On s'appelle tous les mois, etc. C'est ma soeur, c'est ma femme, c'est formidable. Et puis les 2 autres personnes sont des mères célibataires qui ont décidé de ne plus avoir d'hommes chez elles. Parce que divorce douloureux, parce que infidélité. Alors le mari a été infidèle pendant 20 ans et puis la femme a fait un écart et c'est une salope, bon, ça on connaît. Et c'est notamment en m'exprimant sur des forums et des choses comme ça que je rencontre des gens. Pour l'instant, j'ai une Canadienne, une avocate canadienne qui est à Montréal, qui ne sait pas comment, parce qu'on voudrait se rencontrer, on voudrait se voir, elle voudrait venir en Europe. Je dis, mais attends, c'est-à-dire qu'il y en a une qui vit vraiment, qui est, on va dire, polyamoureuse, et puis l'autre qui a un besoin, mais qui... Parce que la rencontre de base, c'est toujours... Je préviens toujours. Donc quand je rencontre quelqu'un, je dis, voilà... Jamais je ne quitterai... Mais je ne quitterai pas mon épouse parce que je suis... C'est parfait. Mon histoire est parfaite. Et donc, voilà.
Une femme que j'ai aidée d'une certaine manière a tout fait pour que je m'attache à elle. Mais comme, malheureusement, elle croit dans la relation exclusive, unique et éternelle... elle a décidé, aidée par ses filles qui ne comprenaient pas comment je pouvais vivre cela, de chercher une autre relation. Elle a trouvé quelqu'un qui lui a promis la relation unique, exclusive et éternelle, et elle part. Alors, elle part en me disant, j'utilise ces termes, ce ne sont pas les miens, je ne suis pas amoureuse de lui, je suis toujours amoureuse de toi, mais je m'en vais.
Je voudrais juste répondre pour la question juridique des enfants. Je crois qu'il y a 2 questions. Il y a soit dans cette question qui est posée en arrière-fond, à qui appartient l'enfant, à quel père ? Et là, soit on bifurque vers une autre mentalité de société qui a déjà existé, qui existe toujours en Chine, qui est un matriarcat où les femmes ont des enfants avec plusieurs hommes. On ne sait pas qui est le père de l'enfant et l'enfant est élevé par le couple frère-sœur. C'est là où l'enfant a un repère masculin. Mais le plus important, ça rejoint ce que tu as dit tout au début, c'est l'héritage. Oui. Et en fait, c'est le côté juridique, c'est la seule chose qui inquiète les gens, c'est l'héritage. Peut-être qu'il y a une piste, c'est de peut-être abolir l'héritage direct et indirect. C'est-à-dire, à partir de là, il n'y a plus de problème. Le père peut faire hériter son enfant sans devoir payer des taxes épouvantables.
Ouais, donc, mais ça, c'est une révolution, Catherine.
Oui, mais je veux dire, on n'est pas obligé de jouer sur la carte. Les polyamoureux ont des droits. On peut très bien contourner et dire on abolit les taxes sur les droits non directs. C'est-à-dire que quand moi, je veux faire hériter, par exemple, n'importe qui ici dans cette salle, eh bien, elle va devoir payer 80% d'impôts. Si on supprime ça... Il n'y a plus de problème.
Eh bien, la parole de la fin, ça pour dire qu'en fait, je ferai un résumé, parce qu'il n'y a pas tout. Et je le ferai plutôt sur mon blog, qui est un espace que je maîtrise beaucoup plus. Et je mettrai un lien sur le site Polyamour. Donc, comme ça, les gens intéressés viendront sur mon blog, mais ça ne sera pas diffusé n'importe où, parce que le site Polyamour, ce n'est pas moi qui le tiens. Donc, je ne maîtrise absolument pas ce qui s'y passe. Voilà.
Et donc, encore un petit mot par rapport à ça. Donc, sur Radio Campus, c'est un potentiel de 10 000 personnes à Bruxelles. L'émetteur se trouve à Schaerbeek. Ça irradie plus ou moins toute la ville. Donc n'hésitez pas, 92.1. Mais il y a aussi le site qui permet d'écouter les émissions. Donc moi, j'ai envie quand même de tout doucement remercier tout le monde parce que je trouve que c'est une soirée extraordinaire. Je suis même un peu dans l'émotion parce que je trouve ça tout à fait extraordinaire tout ce qui s'est passé, la qualité des personnes ici, tout ce qui se passe. Et je crois qu'il y a beaucoup d'envie d'aller boire un petit coup, de se détendre. Voilà, oui, et donc, oui, je voudrais vraiment remercier Thomas qui nous accueille ici. Et je crois que c'est vraiment une belle aventure. J'ai l'impression que ce n'est pas fini. Enfin, je pressens. Un grand merci vraiment à Bruxelles Laïque et tous les collègues. Et puis à Françoise aussi d'être revenue encore une année en plus. On peut l'applaudir. C'est vraiment très chouette. Merci.
Donc moi je remercie Philippe d'avoir organisé cette soirée. Je vous remercie d'être venu. Et je donnerai le mot de la fin à Vincent. C'est vrai que tu es un horrible, tu es un affreux, je te l'ai dit 1000 fois, mais ça n'empêche pas que je t'aime beaucoup.
Les musiques qui illustrent cette entrevue sont Ceste Ocho du groupe Suerte pour le générique début et fin. Ce groupe est disponible en téléchargement libre sur jamendo.com sous licence Creative Commons 2.5. Sur le site de polyamour.be, vous trouverez toutes les précieuses informations relatives aux amours pluriels, comme la possibilité de réécouter toutes les émissions Polyplaisir des Utopies en téléchargement ou en écoute sur un lecteur intégré à la page de l'émission. Inscrivez-vous aussi au forum pour connaître les détails des rencontres Polycafé qui ont lieu chaque premier mercredi soir du mois dans la maison Arc-en-Ciel, rue du Marché au Charbon, 42 à 1000 Bruxelles. C'est un bar associatif à 2 pas de la Grand Place. Vous y venez de plus en plus nombreux, l'ambiance y est chaleureuse. C'est un endroit ouvert à tous, que vous soyez dans une relation polyamoureuse ou non, vous êtes les bienvenus. Je vous rappelle également les dates de diffusion sur Radio Campus, le deuxième mercredi du mois à 21h30, et en rediffusion le quatrième jeudi du mois à 16h sur 92.1 MHz à Bruxelles. Cette émission est produite sous licence Creative Commons 2.5. Polyplaisir des Utopies, c'est aussi la joie d'émettre sur cette radio intelligente et curieuse qu'est Radio Campus. Je vous retrouve le temps d'une traversée dans quelques semaines sur l'autre rive, celle des imaginaires collectifs, celle des Polyplaisirs des Utopies. Mm-hmm.